Meilleur, meilleur.
Putain, c'est un nom de ouf, non ?
Radio.
Ouais, 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 salut tout le monde, c'est Quello, bienvenue sur Meilleur Radio. On est là pour parler de tout et de rien, mais du mieux qu'on peut. Forcément, je suis pas tout seul, je suis accompagné de mes gars Loco et Othello. Ça va ou quoi, les mecs ?
Ça va et toi, gros ? Tranquille ?
Ça va, écoute.
Hey, on est là pour un grand moment de l'année, la mi-saison. Là, on est en août quand on est en train d'enregistrer cet épisode-là. On va faire un top de mi-saison. Je pense que c'est important de le faire. En tout cas, on en a envie sur tout ça. Il y a pas mal de trucs cool qui sont sortis cette année, que ce soit film, série ou musique.
Ça va être ça, le
général.
On va traiter ces trois trucs-là. On va pas forcément faire un top 3 par personne. Je pense qu'on va surtout parler d'un film qui nous a marqué chacun, une série chacun, et un album ou un morceau chacun, pour ceux qui n'arrivent pas à se décider, comme Othello, par exemple.
Je peux me décider, j'avais juste pas envie.
De toute façon, je pense pas qu'on ait assez de temps pour pouvoir faire un vrai top.
C'est aussi ça. On va essayer de pas faire un truc de deux heures. Qui est chaud pour commencer ? Othello, t'es chaud ?
Vas-y.
On s'envoie.
On se met sur le film de l'année pour commencer ?
Ouais, on prend les films.
Film en premier.
Moi, je voulais revenir sur un film qui, je trouvais un peu... Déjà, il a eu du mal à commencer. Il a eu du mal après. Enfin, il est reparti très vite. C'est Donjons et Dragons. Je sais pas du tout ce que vous en avez pensé.
Moi, je l'ai toujours pas vu, ce film, surtout.
Ça m'étonne pas.
Il y a que vous, en plus, qui me l'avez vendu en mode c'est d'art et tout. Vraiment, faut y aller et tout.
Parce que le film, je trouve, déjà, au bout de 2-3 semaines, c'est là où il y a eu une hype après la sortie de « En fait, il est cool, ce film. En vrai, il est sympa, il est drôle, il est bien fait et tout. » Et je suis allé voir avec ce truc-là de « Apparemment, c'est sympa. » Et on est ressorti un peu avec le même truc de « C'était vraiment cool, avec Loco. » De dire, bah, c'était une bonne surprise, tu vois.
C'est ça, j'ai trouvé que c'était un peu... C'est exactement ce qui s'est passé. Genre, j'y suis pas allé direct parce que j'en attendais rien. Alors, avoir vu les trailers qui me donnaient pas du tout envie.
J'aime beaucoup nos Français, hein, on est patriotes, mais la bande-annonce française, elle est catastrophique, okay, je trouve, par rapport au film. Vraiment, à chaque fois que je voyais au cinéma, j'avais pas envie d'aller le voir. C'était horrible.
Ah ouais, tu m'étonnes.
Et pourtant, ouais, bon moment, tu vois.
Bah, surtout, c'est pas une licence qu'on a saignée. C'est pas
non. C'est nouveau, un
nous,
peu.
Tu vois, machin.
C'est ça. Et puis le lore de Donjons et Dragons, il est,
oui, c'est ça, il est très, 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 très vieux en plus.
C'est ça, je pense. Il y a un peu des gens qui peuvent connaître, parce que je crois qu'il est revenu dans d'autres jeux vidéo, dans d'autres trucs, tu vois. Mais c'est des détails que tu connais. C'est-à-dire que moi, pendant tout le film, quand il parlait de... Je crois que c'est Baldur's Gate, notamment.
Oui, c'est ça, Baldur's Gate.
3 est sorti il y a pas longtemps.
Il vient de sortir.
À un moment, ils disent Baldur's Gate. Genre, ah ouais, je vois le jeu. Mais je sais pas exactement ce que c'est non plus. Tu vois, le lore de Donjons et Dragons, c'est très, très particulier, très 90s, je crois, non ?
Même avant, en fait. Le premier, il me semble que le premier truc... Enfin, le premier plateau... Donjons et Dragons, ouais, c'est un peu avant les années 80, donc du coup c'est ça en fait. On voit même, il joue dans la série à succès que probablement énormément de gens ont vu, Stranger Things, et comment il joue même à Donjons et Dragons, en fait, tu vois, genre, c'est vrai que c'est...
Et du coup, faire un film sur cet univers-là qui existe depuis si longtemps, que tout le monde connaît, en vrai c'est dur, et pourtant je trouve que c'était vraiment réussi, parce qu'il n'y avait pas un côté un peu méta, c'était vraiment juste on va raconter une histoire dans cet univers-là, les acteurs sont cool... Les effets spéciaux sont vraiment cool aussi. Il y a beaucoup de... Ce que j'aime beaucoup, d'effets pratiques, où c'est des monstres qui sont frais. Tu sens que c'est vraiment fait, qu'ils n'étaient pas rajoutés après derrière, etc.
Ça se perd, ça, en plus.
C'est ça, de fou.
Ah oui, il y avait du vrai make-up.
Ouais, exactement. Des vrais genre des furies, tu vois. Genre vraiment du vrai taf. Et c'était assez satisfaisant, du coup, de voir ça dans un film où ils auraient pu très bien faire ça en mode fond bleu. On tourne pendant deux semaines, après, on se démerde en poste, tu vois.
Parce que c'est vrai qu'en plus, ça fonctionne... Ça marche bien, c'est une dynamique qui est facile, parce que c'est la même dynamique que celle des jeux Donjons et Dragons, des jeux de plateau, avec le petit groupe qui sont genre 5 ou 6 maximum, avec un elfe, un machin, un mage, un truc.
Un barde, du coup, en personnage principal. Et même en plus, je croyais que faire un film sur Donjons et Dragons, où t'as littéralement des donjons et des dragons, des chevaliers, tout ce que tu veux, et que tu prennes ton personnage principal en tant que barde, qui n'est pas une classe que les gens vont kiffer. Un barde, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui joue de la musique.
Le ménestrel.
C'est ça, c'est vraiment... Et du coup, faire ça en personnage principal et rajouter en plus une histoire intéressante, etc., je trouvais ça trop, trop cool. Et non, le film, c'était une bonne surprise. Et quand je l'ai fini, je me suis dit, bah, ça pourrait être une série de films. Tu sais, genre de 4-5 films. Je pense que j'irais les thèmes à chaque fois. S'ils gardent les mêmes acteurs, le même rythme, le même humour, etc. Mais le film, je crois, il n'a pas tant marché que ça.
En fait, c'est ça. Il a à peine rempli, si je me souviens bien, ce qu'il a coûté, en fait. Il a à peine été remboursé. Donc, à voir s'ils en font un deuxième, parce que les critiques sont pas mauvaises, en fait. C'est plutôt ça.
C'est ça. C'est que l'après-coup était cool. Les gens ont parlé après. Les gens se disaient, allez le voir quand même. C'est un bon moment, surtout au cinéma, tu vois. Mais je pense que c'était aussi... C'était une période un peu bâtarde où il y avait des gros films qui étaient sortis. Il y avait un peu de... Un truc que je comprends toujours pas, mais de Top Gun 2 qui avait sauvé le cinéma, donc on était un peu au cœur retour au cinéma, mais c'était quand même un peu creux. Tu vois, il n'y avait pas une hype qu'on a eue avec...
C'est ça. La vie après le cataclysme.
Exactement. Le cinéma se relevait un peu à peine. Et je pense qu'un film comme ça... Déjà, il aurait dû sortir en été. Je crois qu'il est sorti en début d'année. Et en vrai, un film grand public...
C'est un film d'été, en plus.
Humour, ouais, c'est un film d'été.
Non, en vrai, moi, ce qui ne m'avait pas donné envie, c'est que on en avait marre de Marvel, déjà, dans cette formule-là. Et quand on regardait le teaser du film, j'avais l'impression de voir un mauvais Marvel déjà.
Alors que pourtant, il n'y a pas... Justement, il n'y a pas tant de blagues que ça ou d'humour.
Ouais, mais dans le teaser, il n'y a que ça, frère.
Et c'est pour ça que la bande-annonce, elle est horrible.
Bah oui.
Bah, c'est ça, la bande-annonce. De toute façon, on avait tout. Moi, je me souviens que je m'étais dit, mais c'est quoi ce navet
affreux, ça, vraiment.
Non, mais c'est le genre de film, normalement, j'y vais un peu à contre-coeur quand il n'y a rien d'autre au cinéma et que vas-y, pourquoi pas.
Faut rentrer le ciné-pass.
Exactement.
Moi, je ne l'ai pas vu au ciné, par contre, je l'ai vu. Mais il est sorti vite, en fait, du coup, sur Internet.
Après, on était genre 8 dans la salle. C'était pour un film comme ça, c'était une petite salle au Gaumont en plus.
Ouais.
Franchement, c'était petit de fou et il n'y avait pas grand monde, mais je suis ressorti en me disant
Je suis tellement, en vrai, je sais même pas s'il est sorti sur les plateformes et tout.
Même s'il est sorti sur les plateformes, non ?
Je sais pas.
Après, il a dû sortir, je sais même pas exactement comment il est sorti.
En pirate, évidemment. Ça, c'est.
Mais bon, on est toujours contre. Le cinéma, ce Gaumont, vous entendez, on va au cinéma.
Je vais pas vous remettre la musique d'Eddie Vix, mais je suis à deux doigts là.
Mais c'est vrai que même le Chris Pine qui joue l'acteur ou le personnage principal, c'est le gars
qu'on a déjà vu dans quoi lui d'ailleurs.
Les Wonder Woman, c'est le gars de Star dans les films Star Trek, c'est un des Chris là, tu vois,
à un moment
il se battait un peu pour la domination des Chris, puis maintenant c'est clairement Chris Hemsworth qui avait gagné
On l'a vu aussi dans Don't Worry Darling récemment,
oui, voilà, ouais, c'est ça.
Un peu surcoté, mais un autre débat.
C'est le film de Olivia
Wilde,
voilà.
Avec Harry Styles, avec Florence Pugh.
C'est ça, avec Florence machin. Et c'est vrai que lui, son personnage, il joue pas pour une fois un personnage cliché, genre tu sais qui est super fort, machin. Tu sais, c'est un peu justement le personnage un peu décalé du barde, machin. C'est un peu un espion. Enfin, du coup, j'avais trouvé que c'était en plus. C'était un bon film, un bon choix de casting et surtout pas besoin de connaître du lore en fait pour le regarder.
Oui,
c'est ça. Tu rentres dedans, bam, tu suis une aventure de 5 mecs, 5 personnes qui ont des pouvoirs et des capacités différentes, un background différent et hop, ils ont un but commun et tac. Et c'est ça D&D au final d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Et même je trouvais qu'il y avait des trucs assez sympas où les personnages sont pas soit très forts dès le début ou soit éclatés et après c'est meilleur. C'est comme du D&D où t'as l'impression qu'à chaque fois qu'ils vont faire une action, qu'il y a une scène d'action, qu'il y a un combat, t'as un lancer de dés et du coup le combat va être soit incroyable pour l'un, soit catastrophique pour l'autre.
Il y a réellement un lancer de
dés? Non, okay. mais je trouve que
tu
pouvais le ressentir. Okay, tu vois. Okay. Si tu te mets un peu dans l'idée, ok, là c'est un jeu de rôle, tu te sens un peu du film, tu vois un peu les personnages qui font une attaque incroyable et celle d'après elle est nulle à chier, tu vois, et c'est pas vraiment de leur plein gré. Et je trouvais que ça c'était bien implanté.
Ouais,
je trouvais ça trop bien implanté pour le coup.
Mais c'est vrai que ça. On voit le peut-être que ça redonnera un peu de succès au film, enfin un peu de traction on va dire avec le jeu Baldur's Gate qui vient de sortir là, qui est Baldur's Gate 3, qui est le nouveau jeu. Il y en avait déjà eu avant deux quand on était à l'époque la PS2 machin, et là qui vient de sortir sur PC et qui sort en septembre sur console, et c'est dans l'univers de D&D.
Putain, jeu Baldur's sur Play 2, gros, ça me dit grave.
Sauf que là il y a vraiment, je sais pas si c'était le cas dans Baldur's Gate 2, parce qu'à l'époque je l'avais pas fait, mais il y a le jet de dés qui te permet de faire différent et tout, et par contre c'est le roleplaying, il est poussé à mort, tu peux faire un peu tout ce que tu veux et même faire des trucs qui fonctionnent que dans l'esprit de D&D, genre tu vois le mec il va pour monter dans un château, tu vois, il va empiler des caisses. Mais genre une cinquantaine, tu vois, il va se mettre dessus et hop, il va jump de l'autre côté. Et tu sais, ça, c'est grave des trucs de D&D où tu sais,
tout est possible. Tout ce
que, en gros, tant que t'as l'idée et qu'il y a des dés à rouler, c'est bon en fait, tu vois. Et du coup, il y a vraiment. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu aussi ce côté-là dans le film sans que ce soit trop difficile, enfin, trop élitiste. Enfin, tu le ressens pas non plus, tu vois ce que je veux dire. C'est pas.
Oui, c'est pas pour les gens qui font du jeu de rôle, tu vois. C'est l'idée derrière en fait que je trouve assez cool. Le jeu entre les deux est vraiment assez cool. La barrière est assez fine, mais tu peux quand même la ressentir si jamais tu ressors un peu du film. Tu dis, ok, si là je regarde, c'est des gens qui jouent un jeu de rôle, je les vois faire ces actions-là un peu débiles.
Tu dois pouvoir voir le.
Et en plus, avec Michel Rodriguez qui joue certes un peu un garçon manqué, mais qui a un rôle très cool avec un personnage hyper intéressant.
Oui, qui fonctionne, grave.
C'est ça. Et ça fait ressortir le fait que Michel Rodriguez n'est pas la meilleure actrice de tous les temps, mais qu'elle a un bon casting, en vrai, quand on la met bien dans un bon...
Même moi, j'avoue, je suis pas hyper fan de comment il s'appelle... Le gars qui joue le mage, Justice Smith. Justice Smith, qui était le gars de détective
Pikachu
machin
ah,
et
oui,
tout. Là.
Oui, okay,
et lui, je suis pas hyper fan, sauf...
Il jouait dans Get Down, la série.
Exactement, c'est ça qu'il a lancé. Et même, il y a juste un film qu'il y a sur Netflix qui s'appelle All the Bright Places. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça,
oui,
et bah gros, moi, ce film, c'est le film qui m'a probablement le plus marqué de ma vie, qui m'a fait qui m'a fait le plus pleurer et tout, genre tu vois, et aujourd'hui c'est le seul film que je peux pas regarder. Je l'ai vu une fois, je le regarderai jamais.
Tous nos jours parfaits.
Tous nos jours parfaits, il s'appelle. Hein. Et c'est vrai que bah du coup moi je l'aime pas forcément cet acteur et dans D&D et dans Nos jours parfaits, enfin The Bright Places, et bah il m'a fait oublier que je le trouvais pas exceptionnel, quoi, tu vois. Donc du coup, c'est vrai que quand j'ai vu le cast aussi, ça aidait pas forcément, tu vois.
Non.
Michel Rodriguez, Justice machin, même si c'est pas un mauvais acteur. Voilà.
Chris Pine.
Il y avait une équipe B, quoi.
C'est ça.
Une équipe reléguée un peu.
Mais en fait, ça c'est très D&D aussi, en fait.
Oui.
Équipe B, tu vois, les
losers un peu,
ouais,
quoi.
Tu vois, il y a un petit.
Tu vois très rarement les personnages principaux de l'histoire.
Tu vas pas voir Michael B. Jordan.
Il y a d'ailleurs ici, tu vois juste qu'il y a un personnage qui est super fort. Et tu sais, c'est la caricature du paladin, un peu machin, le tismé avec des dreads là, qui est super fort. Et tu vois que ce personnage, il est là juste pendant genre une petite vingtaine de minutes, une petite demi-heure, puis après il repart en fait, parce que ça correspond pas au...
Ça fait très MJ qui rajoute un personnage très fort, parce qu'ils galèrent, ils sont vraiment trop dans la merde. Bon, ok, là il y a lui qui arrive et qui vous sauve, et vas-y, vous continuez.
Le MJ, c'est le
maître du jeu. Et du coup, ce qui est joué par Roger Jean Page, qui joue dans les chroniques de Bridgerton.
Ok, ça c'est... Pourquoi ça me dit quelque chose, ça?
Parce que c'est ce gars-là qui a une tête...
Oui.
Si vous avez vu Bridgerton, vous voyez, je pense...
La série, c'est sur quoi?
Je sais pas exactement c'est sur quoi. Je sais... Genre, tout ce que j'entends de la série, c'est juste qu'il y a des gens beaux qui couchent ensemble, et voilà.
Ça doit sûrement être une série Netflix, ça.
Attention, les balles perdues.
Ça leur ressemble.
Oui, c'est une Netflix. C'est
ok.
Netflix.
Avant de passer à toi, Loco, je sais quel film t'as choisi, je sais qu'on va en parler longtemps.
Oui.
Donc je vais parler de mon film avant, parce que pour choisir ce film-là, j'ai regardé en fait un peu, c'est sur l'appli Pathé, en fait, tout ce que j'avais regardé un peu cette année, tu vois. Et en vrai, il y a eu pas mal de bons films. Genre, je vois Chapeauté 2, en vrai, c'était...
Apparemment qui était bien, je suis toujours pas vu.
Dinguerie,
mais apparemment,
ceux qui l'ont vu, vraiment, faut...
Un niveau dans le
vu,
même...
Faut y aller.
Même genre de niveau que je trouve que... presque au même genre de niveau que le film que je vais recommander.
Oui. Ouais. Bah, un niveau en dessous pour moi, mais là, tu vois, par exemple, il y a Ninja Turtle qui sort là, je sais que ça... Bah, de ce que m'a dit Ipen Dogo, pour ceux qui connaissent, il m'a dit, c'est bien, mais c'est un peu moins bien que Chapeauté, il me dit, par exemple.
Okay.
Mais je les mettrais plus en compétition U2, parce que je pense que le film dont tu vas parler, encore une fois,
c'est du teasing.
Après, du coup, il y a eu les Gardiens de la Galaxie 3 aussi.
Bonne surprise aussi.
Ça faisait du pire. J'avais pas envie de parler d'un Marvel.
Oui, parce que vas-y.
C'est ça.
Tout ça.
Je vais leur donner leur satisfaction.
Mais régalade, mais putain, on a souffert.
J'avoue, c'est vraiment ça. C'est genre, avec les Gardiens, vous nous avez remis un petit peu redonner un peu de confiance.
C'est ça.
Mais c'est la dernière fois. Là,
vraiment, je te jure.
Exactement ça.
Et après, bah, très très récemment, je pense qu'on peut en parler quand même un peu, même si c'est pas le film que je choisis encore une fois, mais c'est Barbie.
Réussite.
A tous vu que le film est récent, on l'a tous vu là.
Un milliard d'entrées, ça y est.
Ouais.
Depuis genre 2-3 jours, l'heure où on enregistre.
C'est ça.
Coup. Fascinant. En vrai, incroyable que ce film ait autant explosé par rapport au fait que c'est un film sur Barbie, quoi.
Et puis pas seulement que aux États-Unis, parce que tu sais, c'est quand même un film qui est très au niveau des thèmes, qui est très féministe, machin. Et moi, je m'étais dit, aux États-Unis, enfin, il y a un peu plus une... Tu sais, de toute façon, la plupart des idées nouvelles, en tout cas du féminisme ou des choses comme ça, viennent pas mal des États-Unis. En fait, on voit même les théories de la race, tous les trucs un peu qu'il y a en ce moment, tu vois.
Ouais.
Et du coup, bah, quand tu vois que... je me suis dit, comment ça va être reçu, ça, en France, genre, dans le ciné, tu sais, à Saint-Sèble, en français, au cinéville, quoi, tu vois.
Ouais,
ça. Et au final, ils font des entrées, ça fonctionne quand même et tout. Donc, j'avoue que moi, c'était ça, la surprise.
Il me paraît super décalé pour... Enfin, tu vois, nous, on a vu beaucoup de films américains ou même de conneries. Tu vois, il y a Will Ferrell dedans.
C'est ça.
On a vu beaucoup de films avec Will Ferrell. Donc, on connaît l'humour Will Ferrell.
en France, Will Ferrell, c'est pas.
Bah non, c'est pas. Ouais. Il est pas aussi connu que là-bas, tu vois. Alors c'est une icône en vrai, tu vois. Mais il y a beaucoup de cet humour-là. Même Michael Cera, tu vois, il a son perso au final, tu vois, c'est un peu le loser, un peu perdu comme ça. Et ça m'a étonné aussi que ça soit aussi bien reçu parce que c'est des codes super quinri en termes d'humour, tu vois.
C'est vrai.
Et c'est dans Greta Gerwig, je trouve, elle a vraiment trop bien joué sur la ligne qui était ultra fine de faire son film à elle un peu auteur, un peu avec des références, un peu avec un humour très américain.
Particulier,
c'est ça. Et en même temps, un film promotionnel pour une poupée où tout le monde doit le voir ce film, où ils savent très bien que ça va engendrer des ventes derrière, donc il faut vraiment qu'il marche aussi.
I am Kinoff.
Ouais. Oui, Kinoff. C'est ça, exactement, ce pull.
Je sais pas si tout le monde le prend, mais en tout cas, il est dark.
En fait. Je pense que aussi le film, tu peux le lire à plein de niveaux en fait. Enfin, tu le montres à une gamine, c'est l'histoire de Barbie qui va dans le monde et qui est un peu choquée et tout. Tu le montres à quelqu'un de plus âgé, un autre regard. Enfin, tu vois, genre, je pense que c'est ça aussi. Quand de temps en temps, tu tombes sur des films qui sont bien pour tous les types de publics.
C'est très rare.
Et c'est rare en fait. Et du coup, ça. Mais là, en fait,
et qui marche. C'est ça, en fait. Un film qui marche auprès de tout le monde et qui marche même en termes de d'entrée, en termes de recettes, c'est ultra dur. Et moi, je sais que le dernier que j'avais en tête, ça n'a rien à voir, mais dans l'impact que ça peut avoir et dans tout ce qu'il y a autour, ça va être le film Lego. Dans un film pareil, d'une marque très connue.
Ouais, de ouf.
Mais qui a quand même plusieurs lectures.
Des films très brandés, très marqués, c'est ça. Vois, mais en vrai, quand tu le regardes, je ne sais pas, je ne me dis pas ça.
Bah, surtout qu'ils sont... Ouais, en fait, c'est ça, on leur laisse... En fait, je pense qu'ils ont capté des marques qu'il faut mieux laisser la liberté au réal, quitte à ce qu'il poque quelques petites critiques à la maison mère, en fait, quasiment, tu vois, et qu'au final, il passe au-dessus et que ça fasse quand même de la bonne promo, parce qu'il y a plein de moments où, tu sais, je me dis, Mattel, ça, c'est un pic pour Mattel, tu vois.
Même représenté,
beaucoup de fois, même le truc avec, tu sais, c'est que des hommes. Le conseil de Mattel.
Ils disent, on est là pour les femmes. Oui,
et tu vois, genre ça, je me suis dit.
Mais ça doit être qu'à moitié faux, surtout.
En plus.
Ah non, mais c'est ça, c'est sûr. Mais sauf qu'au final, en fait, ça doit être le rapport avantage pour eux, ils y gagnent, en fait, je pense.
Bah, parce qu'en termes d'image, on se dit, putain, ils ont.
Ils sont progressifs.
Ils ont du recul sur eux. Exactement. C'est vraiment une dinguerie.
C'est un nouveau greenwashing.
En vrai, c'est ça.
Juste après, ils ont fait exploiter encore plein de femmes pour faire leur poupée derrière, tu vois.
On a rien à foutre.
C'est réussi, c'est ça qui est fou. Et en plus, t'as un côté, moi, c'est ce que j'ai bien aimé avec des scènes où tu sens que c'est vraiment Noah Baumbach, Greta Gerwig qui ont fait des films qui sont pas du tout grand public, qui ont des gros messages avec... c'est vraiment la définition de film d'auteur, tu vois. Et qui, tu les vois un peu ressortir par moments avec des scènes... Bon, on va spoiler parce que ça fait quand même 2 mois aller le voir, le film. Mais la scène avec la grand-mère,
où
tu sais, genre juste, il y a un jeu de regard et il y a un peu une compréhension de quelque chose et tout. Greta Gerwig qui avait dit, si je peux pas faire cette scène-là, je vois pas pourquoi je fais le film. Et du coup, ils l'ont gardé un peu pour ça, alors que même Mattel, même les producteurs voulaient l'enlever parce qu'ils disaient, ben non, ça sert à rien. Rajouter Ryan Gosling,
faire chanson. Elle est vraiment bien, cette
scène. Elle est trop belle. Et c'est ça qui fait que je trouve le film est plus intéressant à voir que juste un film Barbie. Et cette scène, c'est à ces moments-là où je suis content que ce soit Greta Gerwig et Noah Baumbach qui soient derrière le projet.
Il y a un côté, c'est ça, moi, justement, quand je suis sorti, je me suis dit, c'est hyper il y a un côté ésotérique à certains moments, tu sais, qui relève du rêve, visuellement, du machin, visuellement, et tu sais, des trucs qui sont pas expliqués.
Non, genre, du tout. Toute la scène de fin un peu dans un fond
c'est très méta un peu en fait à certains moments, et justement c'est ça que j'attendais pas en fait. Genre, enfin, je sais ce qu'elle fait Greta Gerwig mais
Barbie l'accepte quoi,
mais je m'attendais pas à ce
que Mattel accepte tout ça.
Je trouve qu'elle a parfaitement mélangé ce qu'il fallait de un peu commercial pour que ça marche, ce côté un peu comme tu dis cinéma d'auteur, et même le côté comédie musicale aussi.
Parce que Ryan Gosling, vraiment, s'il a pas au moins une nomination pour Oscar du meilleur acteur.
Ah, il est trop bon dedans.
Il est génial.
On oublie qu'il est pas réellement stupide.
Surtout il est bon et c'est un rôle qu'on a jamais vu de sa part, en fait, j'ai l'impression. Ou peut-être à l'ancienne, quand il faisait le Gaulmont sur Disney, tu vois, ou je sais pas.
On l'a pas vu comme ça dans Drive,
ça fait longtemps dans Blade Runner. Pas vu comme ça dans des gros films, quoi. Tu vois, au cinéma en tout cas. Parce que je sais qu'il faisait de la comédie au début, de ce qu'on m'a raconté. Quand
qui chantait. C'était quoi? C'était Disney Channel ou...
Je pense hein, je sais qu'il a joué dans des films Disney en tout cas, de loin, tu vois, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça, et tu sens qu'il a bossé le perso, c'est ça que j'ai kiffé. Tu sens qu'il a essayé de vraiment trouver comment, je sais pas, comment la...
Même tu le vois dans la tournée, enfin dans la tournée promotionnelle,
il est à fond.
Et bah, il est à fond et tout, genre, moi je l'ai jamais vu investi comme ça, genre, t'as l'impression que le gars il a fait les Blade Runner, les machins et tout, il était avec Harrison Ford et tout, et genre moi je l'ai jamais vu rigoler, enfin tu sais, il a l'air... sympathique d'un seul coup, ouais, tu vois, genre, enfin beaucoup plus accessible. En
après, il est avec Margot Robbie aussi pendant toute la promo, peut-être que
c'est dur d'être triste.
Peut-être, peut-être que ça égaye le parcours.
Alors que, en plus, c'est ça qui est fou, c'est que de base, il avait refusé le rôle, quoi. C'est
ça, ah, je savais pas, moi.
On lui avait proposé, il a dit non, je pense que je suis trop vieux.
Ok.
Et je crois que c'est la phrase la plus stupide que tu peux. Vraiment, je pense qu'il a dû, il a dû se faire gifler. Et on a fait arrête,
bah,
viens.
Si l'actrice qui jouait Barbie était plus jeune, encore j'aurais pu comprendre. Mais là, en ils ont à peu près les mêmes tranches d'âge, je pense.
Non, en fait, je crois que Ryan Gosling, il est plus vieux que Margot Robbie. Hein, genre,
C'est vrai que Margot Robbie, elle est jeune. J'oublie à chaque fois.
Je savais pas, moi. Je pensais qu'elle faisait même. Je connais même pas son âge.
Je crois qu'elle a un peu plus de la trentaine.
On n'a pas.
Voilà. Mais à quel âge Ryan Gosling?
Bien la quarantaine, je pense.
Ah ouais.
Ah ouais. Bah oui. Oui, ah ouais, ouais.
D'accord, non, chère, moi je pensais qu'il était en trentaine, tranquille.
Ah non, non,
il est un peu plus vieux que ça. Mais c'est pour ça qu'il avait refusé de base. Et pareil, l'actrice de base qui devait jouer ce personnage de Barbie, j'ai oublié le nom de l'actrice, mais c'est une humoriste que j'aime pas du tout.
Amy Schumer.
Amy Schumer, c'est ça.
C'est ça,
qui a quitté le projet en, je crois, en 2018. Et qui, du coup, c'était la meilleure choix possible, en fait.
C'était pas le même film, d'ailleurs, en fait.
Je pense que c'est ça, c'est que c'était vraiment pas le même film, mais ce casting, il est trop parfait, en fait.
C'est ça.
Et c'est, pourtant, c'est un concours un peu de circonstances et de réussir à se battre pour les avoir. Je trouve ça fascinant, alors que c'est logique, quand tu vois le film, tu dis, bah oui, c'est Margot Robbie, quoi. Il y a même la vanne dedans.
Qui dit à la production.
C'est ça.
Hélène Mirren, tu sais, d'ailleurs, qui fait la voix, en fait, la narratrice. Je l'adore, d'ailleurs, elle est super, cette actrice. Et c'est vrai que comment. J'ai oublié
mon truc. Tu parlais de Barbie, mon ref, je peux pas te dire. Non. Plus. Ça va pas revenir. Moi, il y a juste un truc, tu sais, je fais des stories quand j'aime bien un film, que je l'ai vu et machin, et j'en parle de Spy. J'ai reçu pas mal de réponses de gens outrés que j'ai aimé le truc. Genre, à deux doigts de me dire, mais vraiment, c'est pas une blague, mais machin.
J'ai eu la même réaction.
Le film, il est horrible.
Ah oui, par contre, ok.
D'accord. Ouais, les gens qui ont détesté le film, genre, ils ont pas compris c'est quoi ce navet et tout, machin. J'ai même eu des trucs en mode. Margot Robbie, c'est juste une belle actrice.
Oh là là,
moi, je suis pas d'accord avec ça. On peut pas.
Dis les hâtes.
Personne est d'accord. Enfin,
c'est une incroyable actrice. C'est terrible.
En plus, elle trouve à chaque fois. Je comprends.
C'est ça. Tu regardes toute sa filmographie, elle est courte et pourtant elle est incroyable.
Bah ouais.
T'enlèves juste Suicide Squad. Mais vraiment, sinon,
mais
le reste.
Elle dans Suicide Squad.
Le premier.
Elle dans Suicide Squad, son perso, il est bien, frère. Tu vois, c'est juste, c'est pas le bon film.
Après, il est très. En fait, c'est qu'il est mal écrit. C'est pour ça que t'as du mal à vraiment.
Elle, la Harley Quinn, gros.
Oui, en vrai.
T'as vu.
Ça a marché après. Birds of Prey, sur le deuxième Squad, oui. C'est vrai que le premier. Enfin, après, c'est un mauvais film. C'est pour ça que je le recommande pas sur sa filmographie, quoi.
Surtout.
Mais non, mais Margot Robbie, elle est incroyable. Dans Il était une fois. C'était quoi? Une fois dans l'Ouest? De Tarantino?
Once Upon a Time in Hollywood.
C'était une fois Hollywood, du coup. Bah, là-dedans, elle est incroyable aussi.
Ouais, elle est très bien.
Avec ses pieds sales, là. Ouais. Cette scène de Tarantino. Ça, et d'ailleurs, j'y ai pensé pendant. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié. Ouais. Tu sais, dans le film, justement, de Barbie, là, et bah, tu sais, il y a quand même tous les bails avec ses pieds, tu sais, où elle est en pied, machin, puis après, ils sont là. Et je me suis dit, c'est dingue quand même. Genre là, elle arrive, elle est là, elle est loin de Tarantino, elle est pas obligée de montrer ses pieds ou machin. Et là, bah, en fait, si, parce que c'est essentiel au personnage de Barbie.
Mais c'est très drôle d'ailleurs, ce truc-là, où elle enlève ses talons et elle marche toujours comme ça. Ça, c'était bien. J'y aurais pensé, frère, tu vois. C'était trop frais, ça.
Non, c'est ça, c'est qu'il y a plein de détails dans le film qui font que le film est réussi à 100%.
Mais du coup, pour vous dire, moi j'ai pas pris ce film là, pourtant il aurait pu prendre une place de numéro 1 dans la mi-saison parce que grosse surprise en vrai de vrai, film un peu unique en son genre, je trouve, en tout cas dans la période qu'on connaît, tu vois, ça sort du lot et tout. Et ça fait le lien parce que c'est aussi un film où il y a Margot Robbie dedans, le film que j'ai choisi, et c'est par le même réalisateur que Whiplash, pour
classique.
Dire que La La Land. Moi, personnellement, je kiffe.
La La Land, c'est dans mon top 5 des films.
Ouais, en vrai de vrai, il me régale, moi.
Ouais, mais du coup, il est bien, alors. Je vais pas dire de... j'ai rien à dire, du coup. Ouais, on va pas parler de La La Land, du coup.
On va pas parler de La La Land,
Moi, je suis pas du tout objectif tant qu'il y a Emma Stone, en fait.
D'accord.
Ah ouais, ah non, moi, c'est même pas... Voilà. Moi, c'est... Je sais pas.
Encore une fois, Ryan Gosling, en plus.
Ouais, en plus, encore une fois. On parle de toute façon, c'est que les mêmes acteurs partout, apparemment. Mais en tout cas, moi, le film que j'ai choisi, c'est sorti en janvier 2023, donc c'est arrivé très tôt dans l'année, et c'est Babylon. Donc c'est un film qui parle en fait du passage, de l'arrivée du son dans le cinéma, Et du coup, qui met en péril certains acteurs talentueux dans le cinéma muet, ouais. comme le personnage de Brad Pitt.
Ah, c'est ça le pitch, ok.
Ouais, c'est ça. Et Margot Robbie, qui elle est en galère et c'est une meuf, une détraquée un peu machin, qui.
Personnage.
Qui a un personnage très particulier en tout cas, mais qui le joue à merveille. Et elle arrive en fait dans la période du muet, mais vraiment à la fin de la période du muet. Et du coup, elle doit arriver dans le son et elle fait ses armes dans le son, pile quand elle est en train de péter.
Elle transition.
Et, ouais, et c'est, okay. c'est dur en fait pour tout le monde et c'est des nouveaux acteurs. Qui arrive, c'est tout ça, et on voit aussi toute la technique qui est liée au son.
C'est ça.
Tu vois, le faire des. Avant, il tournait, en fait, moi je savais pas ça, mais il tournait, tu sais, on voit dans le film qu'il tourne trois films en même temps. En fait.
Oui, c'est ça.
Parce t'as que vu qu'il n'y a pas de bruit, bah, ils peuvent foutre un bordel monstre entre trois films, trois plateaux de films.
Ah oui, sur les. Ah oui,
bah, il oui, n'y a pas de problème, tu vois, et dès que c'est silence plateau, bah, c'est bon, c'est l'arrivée des hangars à Hollywood, tu sais, où là, c'est du ça. Coup, bah, on fait un silence plateau, les ingés sont, ils savent même pas, personne sait vraiment parler en jouant, apprendre des textes, du coup, il faut apprendre des textes.
Enfin, la bref, caméra, en fait, elle est dans une boîte, ouais. parce que du coup, elle fait trop de bruit.
Ouais,
sauf que vas-y, ça chauffe, il n'y a pas d'aération, que la personne est dedans, en ouais, sueur et tout.
Et en fait, il y a trop de problèmes. Mais c'est okay. trop intéressant de voir ça. Je sais pas à quel point c'est réel ou si c'est poussé pour la comédie du film aussi un peu. Mais
ça
en
doit
tout
être
cas,
basé.
Ça paraît quand même vachement vrai. Tu vois. Après, forcément, c'est narré et tout ça, mais c'était un film de ouf. Et pareil, quand je dis que Barbie, c'est un film surprenant et qui sort un peu du lot et tout, celui-là, pour moi, c'est exactement ça, frère. C'est-à-dire, tu vas en vrai, moi, la bande-annonce m'a donné envie, mais je m'attendais pas à ce que j'ai vu. Tu sais, il y a des parties dans le film. La film avec Tobey Maguire, il s'appelle là.
Oui, ouais. Incroyable.
Cette partie-là du film.
Qui dure bien longtemps en plus.
T'as l'impression que c'est un autre film, frère. Tu sais, tu sais même pas dans quoi t'es en train de t'embarquer, mais c'est incroyable.
Pour le coup, je trouve la bande-annonce est bien parce qu'elle te garde un peu juste le début du film.
Ouais,
alors que
ouais.
déjà, il y a beaucoup de choses en début du film. Donc
grosse
y a eu
scène
assez...
d'intro.
C'est
grosse
ça,
grosse
exactement. Ouais. Et pourtant, du coup, après tout le reste, bah, ça garde un peu le même rythme. Ça peut retomber, mais c'est hyper intéressant quand même. C'est trop bien filmé, de toute façon, Damien Chazelle. Et ouais, la bande-annonce, pour le coup, là, je trouve qu'elle sert le film à 100%.
Totalement.
Parce que tu dis, ok, je vais voir un film où c'est genre limite une grosse soirée pendant tout le film.
C'est
années.
Ok, puisque moi, c'était ça. En fait, j'avoue, quand j'ai regardé la bande-annonce, je me suis dit, ça ressemble à Gatsby. C'est
dans il y avait un peu ce truc-là.
Dans le truc, tu vois.
Et surtout en fait, la scène d'intro, quoi.
C'est ça.
Moi, j'ai pas vu Gatsby, mais je sais ce que le personnage.
Mais c'est qu'elle est très présente. C'est que, du coup, cette scène d'intro, ou ce début, est très présent dans la bande-annonce, en fait.
C'est ça. Alors que c'est vraiment juste les 20 premières minutes du
film.
C'est
un long film, hein. Il dure 3 heures, je crois, quand même.
Ouais,
Donc c'est ça doit être une bonne demi-heure, quand même, tout ce truc-là, parce qu'il se passe plein de choses avec l'arrivée de Margot, les scènes à droite, la rencontre, machin. Il y a plein de trucs, mais c'est ce que j'ai grave kiffé, surtout que. Je sais plus pourquoi, mais je pense qu'on sortait de fin 2022. Il y a dû avoir plusieurs Marvel. Et on se prenait pas mal de fonds verts bien crades et tout. Et
Ant-Man
en fait,
3.
Ça m'a fait... Hein?
Ant-Man 3.
Ouais, ah oui, on y avait ça. Non, bah tu vois, le. Voilà. Exactement le genre de truc qui fait mal à la tête tellement c'est mal fait et tout. Je crois qu'il y avait eu Avatar avant ou c'était après ça?
C'était avant aussi.
Ouais,
ouais c'est
mais
fin
bon,
d'année.
Ça, c'était bien fait pour le coup, mais c'était du fond vert dans tous les cas.
C'était de l'animation presque.
Et là, t'arrives dans un film où tout est vrai, tu sais.
Ouais.
Genre quand il y a la scène de Brad Pitt qui fait justement tu sais il y a plein de gens derrière comme ça dans le désert et tout ils sont je sais pas combien je sais pas en fait il y a pas d'effets spéciaux tu vois bon il y en a peut-être un peu j'en sais rien mais très peu tu sens qu'il y a pas de fond vert qu'ils ont vraiment tourné ça pour de vrai et tout. Je te jure, rien que ça, en fait, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah putain.
C'est les mêmes sensations que j'ai eues quand j'ai vu des vrais effets pratiques dans Donjons et Dragons.
Ouais,
putain.
Bah voilà.
Enfin, ouais, j'ai envie d'être dedans encore plus que quand c'est du fond vert.
Bah, moi, j'avoue qu'il y a un film qui m'a fait ça. Après, c'est pas tout à fait le même. Il n'y a pas d'effets spéciaux vraiment ou de choses comme ça. C'est de Edgar Wright, c'est Last Night in Soho.
Oui, j'ai pas encore vu.
Et ben, bah, pareil,
ça aussi,
c'est particulier. En fait, je pense. Moi, je mets un peu ça dans la même. Le même type de film un peu que tu sais Babylone enfin tu sais des films de pas semi-auteur un peu en fait
ouais,
tu vois.
Okay.
Et comment vous verrez à quoi ça ressemble mais le pitch c'est vraiment pas mal c'est une meuf en fait qui est dans la mode de nos jours je crois que c'est de nos jours et en fait c'est une irlandaise ou un truc comme ça et elle emménage à Londres dans un quartier un peu huppé et tout pour aller à l'école justement. Et en fait, elle emménage dans un appart. Et dans cet appart-là, c'est un peu chelou et tout. Et quand elle dort, en fait, la nuit, elle se retrouve à vivre dans le corps d'une femme dans les années 60, 50.
60, ouais.
Et du coup, l'actrice, c'est comment elle s'appelle, avec ses grands yeux, le jeu de la reine et tout, le jeu de la dame, tu sais, les échecs, là, tout ça.
Qui joue dans The Menu aussi.
C'est ça, dans The Menu, machin. Et aussi, un des Doctor Who. C'est celui qui joue aussi dans le truc des dragons là, de Game of Thrones.
Ok.
Et, et en fait, vous voyez,
c'est David Tennant. Okay.
C'est ça, ouais. Non, pas David Tennant, celui d'après, Matt Smith.
Matt Smith, oui.
Voilà, Matt Smith. Et c'est vrai que c'est le même genre de film, en fait, tu vois. Des trucs un peu, tu sais, qui sont un peu pas forcément accessibles directement, mais qui valent le coup d'être vus ne serait-ce qu'une fois, en fait.
Parce qu'ils sont très stylisés, en fait.
Exactement.
Bah, c'est même pas un film qui se revoit facilement, Babylone. Hein. Franchement, il y a tellement d'infos, c'est quand même assez long et assez dense. C'est un peu une expérience, tu vois.
Cette scène finale qui.
Ouais.
Ça m'étonne pas, vu comment t'étais en train de le raconter, incroyable. Au final.
Ouais, mais c'est vrai que moi.
Elle a pas plu à tout le monde, cette scène finale. Moi, je sais pas si je l'aime bien ou pas. Elle est là, elle existe, tu vois.
Ouais, elle m'a mis un sourire, un peu.
Mais quand même, oui. Moi, je pense que ça m'a fait kiffer sur le moment, c'est juste ça. Que quand tu prends un peu de recul sur le film, tu te demandes si c'était utile et tout, mais peut-être que je me suis juste fait influencer par des avis extérieurs.
Okay.
Parce que voilà, j'ai pas...
Et c'est vrai que...
J'arrive pas à avoir mon propre avis, peut-être. Faut que je me pose des questions.
C'est vrai que la comparaison avec Gatsby, elle a fait sens dans le sens où Baz Luhrmann, le réalisateur de Gatsby, il est très aussi dans tout ce qui est très stylisé, il y a beaucoup d'effets de caméra, juste de mouvements de caméra.
C'est lui qui a fait Elvis aussi d'ailleurs.
C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, okay. Mais là où je trouve que Damien Chazelle était très fort, c'est que même s'il y avait énormément de figurants, de décors, etc., il a un talent de rythme que tu vois justement dans Whiplash et qu'après que tu vois dans La Land, mais là qui est juste incroyable parce que même si la musique c'est pas la base du film, vu que c'est le son quand même, il y a un jeu là-dessus de fou, et le jeu dans le montage, après, dans tout ce qu'il a filmé, c'est magnifique. Et je suis en train de repenser à la scène du Jazzman aussi.
Ouais, bah ouais, l'acteur noir.
Incroyable, qui est une scène qui est hyper forte en termes d'acting. D'ailleurs, pareil, cet acteur-là, je sais pas s'il va être nominé pour quelque chose que ce soit.
On l'a revu, lui, depuis, j'ai l'impression.
Je pense, ouais. Je sais plus son nom aussi, mais c'est une des scènes les plus fortes que j'ai pu voir cette année, en fait, quoi, d'acting d'un personnage qui... T'as l'impression qu'il gueule à travers un instrument, quoi.
Ouais, vraiment, vraiment.
Et dans Whiplash, c'était un peu ça, mais c'était plus la dévotion. Là, c'est vraiment, t'as l'impression qu'il te parle à travers... Et pourtant, tu vois, c'est ça, c'est dans un film où il se passe tellement d'autres choses à côté, tu vois. Alors que ça pourrait être un court-métrage limite à part entière.
Oui, c'est ça, ça pourrait être son... Même ce que tu disais avec le truc de Toby.
Ouais, Toby Maguire, c'est ça. Genre, toute cette scène-là, elle est lunaire. Et voir Toby Maguire dans un rôle comme ça aussi, c'est trop cool.
Après, c'est un bête d'acteur, lui. Hein.
Ouais, mais ça c'est rappel, tu vois. Yes. On l'oublie un peu trop, du coup.
Comment ça s'appelait, le film où c'était un soldat, et tu sais, il rentre il rentre de la guerre, en fait, et pendant ce temps-là, ça, si je me souviens bien du pitch, sa femme, elle l'a trompé avec c'est Daniel Radcliffe, je crois, ou un autre acteur comme ça qui est connu. C'est une scène, il faudra que je te montre.
Okay.
C'est un film où, genre, lui, du coup, il joue un soldat un peu strict, un peu énervé, un peu machiste, machin et tout. Il est excellent dedans, genre. Okay.
Il est terrifiant, hein. Franchement, il sait l'être, hein, parce que dans Babylone, gros, il a un rôle, t'es pas rassuré pendant il y a un bon trois quarts d'heure. Hein, ah, franchement, c'est chaud. Mais encore une preuve que Margot Robbie joue super bien. Il n'y a rien à dire. Forcément que beaucoup de ses rôles sont reliés à son physique aussi, tu vois. Enfin, ça rentre dans son personnage, on va dire.
Mais elle transcende.
En fait, ouais, en fait, ça fait partie de son perso, mais c'est pas sur ça que ça se joue, tu vois. C'est pas.
C'est que ça lui permet d'avoir des rôles encore plus lunaires, et du coup, ça les met dans des situations encore plus folles. Ouais, dire,
c'est
pas flat.
C'est comme Scarlett Johansson, je trouve. Ouais. Un petit peu dans l'idée, enfin, tu sais, qui elle aussi a fait des films, tu sais, elle a fait des Marvel, Margot Robbie a fait des DC, mais à côté, elle a fait des Woody Allen, elle a fait Marriage Story, trucs qui sont.
Asteroid City,
ouais. Voilà, tu vois, c'est une très bonne actrice. Et d'ailleurs, c'était, je sais pas si pour l'anecdote, je sais pas si vous saviez, mais si vous regardez des films de Scarlett Johansson aux alentours des années 2000, en fait, elle a beaucoup plus de sang. En fait, c'est parce qu'elle s'était fait faire une réduction, en fait, pour qu'on arrête de... elle commençait à se dire qu'elle commençait à être un peu typecast et tout. Et du coup, elle a dit hop, stop. Et du coup, ça lui a permis de réorienter un peu sa carrière parce qu'elle disait, ça commence à pas me plaire, les trucs qu'on m'envoie, en fait.
C'est un fun fact, mais très triste.
Ouais, voilà. Exactement. C'est plus une anecdote qu'un fun fact. Voilà.
Ok. Triste réalité du monde dans lequel ça fait réfléchir.
On a vu Barbie.
Mais ouais, en tout cas, Babylone, franchement, allez voir. En plus, il y a Brad Pitt dedans. Moi, je kiffe le nouveau Brad Pitt qu'on a là depuis quelques temps.
Grisou
le daron un peu cool là, je sais pas.
Même dans Bullet Train.
Ouais, Bullet Train, pareil. Même dans Dave, tu vois, enfin, je sais pas, il a que des rôles un peu comme ça.
Ouais, c'est moins aussi sérieux.
Ouais, je sais pas, il dégage autre chose en fait, tu vois. Comme Hugh Grant un peu maintenant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, je vois ce que je veux dire.
Les darons un peu détraqués, tu vois.
Il est dans D&D d'ailleurs.
Ah, ok. Oui, Hugh Grant, oui, c'est vrai. Il a un rôle
important.
Il joue un peu un gars comme ça aussi.
Il joue un personnage décalé, un peu, un peu le même type d'acting que dans The Gentleman, tu sais, le film de Guy Ritchie.
Bah, c'est ça dont je parle. Okay, moi. Tu vois, je sais pas, ils sont un peu les darons détraqués comme ça.
Bah, là, c'est un peu le même genre.
Je trouve que ça leur va bien et ça fait kiffer de les voir comme ça. Ça leur donne grave un second souffle.
De fou. J'adore ce film. Et d'ailleurs, je trouve que ce second souffle pour Hugh Grant, après, on clôt sur Hugh Grant, il a commencé avec. The Man from Uncle, ou tu sais, Code Uncle, tu sais, le film avec Henry Cavill et Armie Hammer.
J'ai pas vu moi ça.
Et un film avec Armie Hammer, ok.
Et Henry Cavill, vous l'avez jamais vu, c'est Guy Ritchie aussi, parce que moi, c'est un de mes réels préférés. Et c'est un film d'espionnage, ça se passe pendant l'occupation allemande de la RDA et machin, comme on dit, avec à l'époque du The Man from Uncle, ou Code Uncle en français. Ok.
Oh, ça me dit tellement.
Et en fait, c'est un espion américain et un espion russe qui sont obligés de bosser ensemble via Hugh Grant, gros, tu vois.
D'accord.
Et comment il devait y avoir une suite, ça n'a pas aussi bien marché que prévu et tout. Okay. Mais c'est un de mes films, genre standalone, qui était juste. Il n'y en a qu'un.
Ouais.
Mais préféré, gros. Il y a des scènes qui sont. La baston est incroyable, tu sais, en mode. Guy Ritchie, tu vois. Mais c'est très, très drôle, en fait. Genre, c'est décalé et tout. Il y a des scènes qui. Le film, je l'ai pas vu depuis hyper longtemps, et pourtant il y a des scènes là
qui sont gravées.
Je m'en souviens encore, en fait. Tu vois.
Okay.
Totalement disponible sur MyCanal, je viens de vérifier.
Ok. Là,
pour ce qu'on.
Je crois qu'il y a Felicity Jones avec dedans de, tu sais, Rogue One, machin, tu vois.
Ok.
Je suis pas tout à fait sûr, mais c'est vraiment un super film en tout cas.
Ok. Bon, en tout cas, c'est tout pour Babylone. Franchement, j'ai rien à ajouter.
C'était
un film de ouf. Je peux que conseiller à tout le monde de le regarder.
Vous m'avez donné envie de le voir.
Ça peut faire un peu peur pour ceux qui n'aiment pas les films longs. Mais vas-y, en vrai, je m'en fous un peu. C'est votre problème, ça. Putain, si on peut plus parler de ce qu'on veut. Non, mais en vrai, Babylone, vraiment. Vraiment à voir.
Moi, un beau rythme, dans tous les cas.
Ouais. T'es pris dans le truc. Tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Il y a mille histoires dans le film, au final, parce que tu suis plein de persos. C'est englobé par le truc du passage au son dans le cinéma, mais ça parle de plein de stories différentes. Il doit y avoir au moins 4 ou 5 personnages, en fait.
Ouais, principaux, limite, que t'as envie de suivre. Au moins 3, je dirais.
Au moins 3, ouais. Ça, c'est sûr et certain. On va passer au gros morceau, je pense. C'est le film de Loco.
Ah, c'est vrai, j'étais là au mode où on part sur les séries et tout, j'avais oublié.
Pas du tout, non. C'est le film dont tu veux parler, qui est un sacré film qu'on a tous vu ici autour de cette table.
Spider-Man, le deuxième Into the Spider-Verse. Voilà, exactement. Et moi, je l'ai vu hier. Non, avant-hier.
Ouais.
Parce que je ne l'avais pas vu, donc je l'ai vu tardivement.
Je l'ai vu il y a une semaine, moi aussi.
Ouais.
Donc on est ensemble là-dessus.
Ah, ok, je pensais que tu l'avais vu au ciné et tout.
Pas du tout, parce que avec tout ce qui s'est passé et tout, je n'ai pas eu le temps d'aller au ciné.
C'est-à-dire ton projet qui est sorti, c'est ça, disponible partout. Ok,
disponible partout le
semaine. Sur toutes les plateformes. Mais en fait, du coup, moi, j'ai eu le temps d'avoir toutes ces semaines de hype, en fait, où tout le monde m'avait dit, mais c'est trop bien, machin et tout. Et c'est vrai qu'en fait, dès les 5 premières minutes du film, j'étais là, mais ok, en fait. Genre, si ça peut devenir un standard pour l'industrie, on va avoir des meilleurs films d'animation que ce qu'on a en film grand public court en ce moment, en fait. Genre, même la direction artistique est incroyable, plus claire que le premier, parce qu'en fait, le premier, le côté glitch et tout,
ça me faisait
mal au crâne. Ouais. Je sais que j'avais dit à ma mère qui est épileptique, je lui avais dit si tu le regardes, parce qu'elle regarde pas mal aussi les trucs comme ça sur Netflix et tout. Je disais, si tu le regardes, peut-être fais des pauses ou machin, parce que c'est vrai que visuellement il était dur.
Moi, ça m'a un peu sorti, moi. Même l'effet bulle des pubs de Fanta en 2007.
J'ai bien aimé l'histoire en fait du premier, mais j'ai pas forcément été à fond dedans, en tout cas par rapport aux critiques qu'il y avait eu qui étaient déjà hyper bonnes en fait. Et là, dans le deuxième, dès le début, même juste.
C'est plus clair.
C'est ça, c'est beaucoup plus clair. Et même le côté un peu peintre. Il y a un côté peinture.
Aquarelle,
voilà, exactement.
Surtout dans le monde de Gwen, quoi.
Exactement. J'allais citer la scène, justement, de Gwen et son père, où elle lui fait un câlin, machin et tout, là. Où, tu sais, d'un côté, c'est violet pour elle, et de l'autre côté, c'est plutôt bleu pour lui.
Ça se transforme un peu en couleur de.
Et j'étais là, mais ça, c'est trop beau, en fait.
À ce moment-là, je me disais, mais. Eh frère, pourquoi ils se font autant de mal que, genre, tu sais, en fait, il y a des chants contre chants quand ils se parlent, et à chaque chant contre chant, ça change de dessin. C'est pas genre tu reviens sur le daron et c'est le même dessin que quand t'étais sur le daron avant, c'est que ça change. Et tu sais, tu te dis, mais pourquoi ils se sont mis autant de travail?
Et après, tu te dis, t'as encore 1h30 de film.
Tu te dis, t'as rien vu par rapport à quand il y a Spider-Punk qui arrive et que le mec, il est en effet. différents toutes les secondes.
Ouais, juste pour faire chier.
Tu vois, genre, tu sais.
Ils ont mélangé tous les styles possibles, frère.
C'est ça,
c'est trop, tu sais.
Et moi, à la limite, le film, je sais que même, par exemple, le casting est particulièrement réussi. Des voix, le nouveau, même celui qui joue The Spot, Jason Schwartzman, qu'on a vu dans plein d'autres trucs.
Et dans beaucoup de Wes Anderson, notamment.
Ouais, c'est vrai. Et à côté de comédie à la con.
C'est ça.
Voilà, ouais. C'est ça. Et je crois qu'il est dans une saison de Fargo.
Okay.
Et lui, pareil, il joue super bien. Et en fait, j'ai trouvé que c'était particulièrement bien amené le fait que Miles, tu sais, c'est Spider-Man, mais pas vraiment. Enfin, que tu sais, il a pas beaucoup d'expérience encore, machin. Que c'est un peu compliqué pour lui. J'ai trouvé que ça, c'était parfaitement
adapté pour ce méchant-là, qui est pareil, imparfait, qui commence.
C'est ça, qui est exactement. En fait, c'est vraiment la naissance du héros et la naissance de son némésis.
Ça
fonctionne bien, tu vois.
Ouais.
Et le seul truc que j'ai trouvé, enfin, c'est même pas une vraie critique au final. C'est juste qu'il faut le voir plusieurs fois, ce film. C'est qu'il y a des moments, il se passe tellement de trucs à l'écran. Que peut-être c'est pas où regarder en fait.
Si t'as pas un Sharingan incroyable pour voir tous les détails, c'est.
Il y a tellement de détails, de personnages différents, de machins, si tu clignes des yeux, t'as manqué un truc en fait.
Je sais que moi je suis allé le voir avec des gens qui l'avaient déjà vu.
Okay.
Et du coup ils ont trop kiffé la relecture parce que du coup tu connais le film, tu savais comment ça se termine, machin, donc tu le regardes différemment avec plus de recul. Et en fait, la deuxième expérience est très bonne.
Et très bonne, ça m'étonne pas.
C'est un bon film à revoir, tu vois.
Ça m'étonne pas.
Alors que pourtant, t'as tellement de choses dedans. T'as tellement de choses dans le film, t'as tellement d'informations, tellement de trucs, mais c'est tellement bien fait et il y a tellement de détails à la con, mais que je pense que tu peux voir que si tu mets pause toutes les 5 secondes sur le film. Et moi, je sais que je veux le revoir justement en DVD pour pouvoir voir genre,
des
peintures, s'il faut, genre un peu dans ce truc-là. Et non, en fait, c'est même dans la construction du film, toute la scène en Lego au début du film,
c'est un gamin
qui l'a fait.
Ouais,
oui, bah oui, c'est le gars
qui a fait en fait les bandes annonces du film en Lego. Et genre,
c'est vrai, ça
quelques mois avant la sortie. Et quelques mois avant la sortie, les acteurs l'ont contacté, ils ont fait bon, on veut faire une scène avec toi. Et toute cette scène-là, c'est un gamin, tu vois.
C'est une dingue.
Elle est trop bien, d'ailleurs.
Et c'est tout ça, en fait, moi je sais que les 5 premières minutes du film, toute la scène avec même le. Vulture un peu.
Leonardo da Vinci, là, enfin, tu vois, genre à l'époque.
Cette scène-là, moi, je me suis dit 5 ans d'attente pour juste cette scène-là me satisfaisait. Et je me suis dit, j'ai tout le reste après. Et.
Comment il gère le multiverse avec le hub Spider, là, machin, où il y a tout le monde. Ça, ça a été mieux géré que n'importe quel film.
Ah bah,
exactement.
Marvel, en tout cas, tu vois. C'est trop.
Il y a un petit côté. C'était en moins fun, hein, ce que je veux dire, mais comment il y a un petit côté Time Bureau dans Loki.
Oui.
Tu vois, tu sais, c'est un truc à part, tu sais, où ils sont dans leur propre machin, ils sont là, ils bossent sérieusement, tu sais, il y a une
entreprise,
voilà, il y a ce petit côté-là, tu vois. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus fun parce que les Spider Persona, ça marche trop bien, tu sais.
Et même. À un moment, il y en a un qui est en 2D, tu sais, il fait. Arrête-toi comme ça. Tu sais, le vieux Spider-Man pendant la course-poursuite,
genre
des vieux jeux à l'ancienne ou chap,
Même des comics de l'époque, en fait.
Ouais, c'est ça.
Il fait « Ah, je me suis coincé quelque chose.
» J'ai oublié ce personnage-là, mais des années 90, et qui est doublé aussi par un acteur que j'aime beaucoup, de Lonely Island, qui est incroyable. Et c'est ça, en fait, même dans les doubleurs de caméo, c'est trop cool.
Ouais.
Et le caméo, moi je sais qu'il m'a.
Il a, voilà, je pas, on va pas le spoiler.
On va pas le dire celui-là.
Non, celui-là, faut pas le dire.
Laisser pour ceux qui.
Mais tu vois, par exemple, quand tu parles de Cass, Jack Quaid, qui est le Peter Parker du monde de Gwen, et qui est là juste pendant genre 2 minutes, qui est le gars de The Boys, Huey, tu vois. Et lui, ça marche bien. C'est Superman aussi dans le nouveau My Adventures with Superman, qui est produit par Adult Swim. Là,
ouais, carrément. Qui avait été animé par Balak, en dessinateur.
C'est ça, qui fait aussi des dessins. Moi, c'est comme ça que j'avais connu. J'étais tombé sur des dessins abusés, un peu complètement érotiques, machin et tout. Et en fait, j'étais là, mais en fait, c'est Balak. Je savais pas, en fait, tu vois, que c'était le même gars.
Qui a fait Last Man en série française.
C'est ça, mais j'avais pas capté, en fait.
Mais moi, c'est vraiment l'histoire aussi qui m'a eu, parce que tu vois, l'histoire du premier, genre, j'étais pas. Tu sais, j'étais pas trop dedans. Le fait qu'il y avait les persos. Je sais pas, il y avait un truc, il y a encore la tante May et tout. Je sais pas comment dire, mais il y avait un truc qui me parlait beaucoup moins, tu vois. Ça m'a pas mis dedans. Moi, c'est pas un film que. Genre, j'ai kiffé de fou, tu vois. L'animation, c'était une claque, mais je retiens pas un film que je mettrais dans un top, tu vois, vraiment le premier. Là, je trouve que ça met une distance, gros.
C'est ça. Alors que
ça n'a rien à voir, t'as vu.
Même si on peut ne pas apprécier le premier, la qualité du premier était quand même folle.
Non, mais l'animation, c'était une dingue.
C'est juste que moi, il me faisait un peu chier aussi.
En vrai, tu vois. Genre, en vrai, ça m'intéresse sans plus, tu vois. Je sais pas comment dire. Là, je trouve qu'en plus, déjà, l'animation est mille fois mieux. Mmh. Et le film, le rythme du film, tout ça, t'es dedans, tu sais. Et bien sûr que des fois, c'est presque dur de suivre le scénar, je trouve, parce qu'il se passe tellement de choses à l'image.
Mais t'as envie de prendre
que t'es
le
là-dedans. Ouais. Genre, je pense que c'est ça, quand tu revois le film, peut-être que tu te reprends des trucs du scénario, peut-être, je sais pas. Tu vois, je pense que aussi, tu te reprends vraiment. Mais il y a tellement d'infos entre ce qui se passe, l'histoire à suivre et tous les dessins différents que je pense que, ouais, à la première lecture, en tout cas, tu dois louper certaines choses.
C'est évident.
Mais tout a été bien fait, que ça soit le multiverse India, tu vois, celui-là, c'est trop
il est
lourd.
Trop bien. Hein,
tous les persos, ils sont cool.
D'ailleurs, ça a tellement marché, ça, qu'ils ont lancé. Sa propre série de comics Spider-Man India.
Il l'avait pas encore.
Parce que non. Ça existait pas genre.
Bah en fait ça a été récemment pas longtemps avant enfin pas longtemps peut-être un an ou six mois avant le film, ils ont sorti des nouveaux trucs Spider-Man qui s'appelait Edge of Spider-Verse. Okay. Et en fait dans chaque par exemple vous voyez le T-Rex dans le film à un moment il y a un T-Rex qui est Spider-Man qui fait tu sais il dit ouais j'ai tout vu et tout là ouais. Et bah ça il a été introduit dans et il fait aussi un T
ça c'était une dinguerie
c'est un whip parce que tu sais c'est T-Rex donc du coup c'est T-Whip tu vois et comment est pareil en fait dans et du coup tu chaque tome enfin volume il y a ça a été intégré plusieurs
c'était des one shots de...
exactement des spider persona t'avais aussi par exemple le cowboy tu sais il y a le spider cowboy
qui est
grave cool
tout,
bah lui il est là il y a aussi
pourquoi il y a une cagoule tu sais
pour cacher sa personne enfin son identité
c'est trop lourd.
Et c'est vrai que ils ont lancé ça et en fait il y a eu aussi le one shot Spider-Man India et en fait ça a bien marché puis en plus avec la popularité du film et du coup pareil il y a un épisode avec tu sais on voit Penny tu sais c'est le robot qui est là tu sais le personnage de manga tu vois qui est dans son petit robot cliché. il y a eu ça aussi tu vois c'était
tout ça, très très cool. Moi, je sais que j'ai envie de voir plus de Spider-Punk quand même aussi. Parce
ouais.
Que...
Ça, c'est un perso qui existe, par exemple.
Ouais, depuis plus longtemps.
Depuis un petit peu plus longtemps. Et depuis, en fait, un événement de Spider-Verse, le premier, en fait, avant, qui s'appelait Spider-Geddon.
Okay.
Armageddon, mais okay, Spider, tu vois. Et en gros, c'est ce qui a introduit le Spider-Verse, et tu sais, la toile avec toutes les araignées, machin, tout ça. Et le fait que c'était pas juste... un truc génétique, c'est que c'était aussi, c'était des totems un peu machin.
Okay.
Et en fait, tout ça a été intégré il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, je pense. Et dans les quelques variantes, il y avait Spider-Punk.
Okay.
Et par contre, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a été retravaillé depuis pour que ce soit Hobbit. Je suis pas sûr que
c'est pas le même. Enfin, j'avais vu des vieilles images de Spider-Punk, c'est pas le même perso.
Pas le même. Et là, maintenant, par contre, il y a deux runs différents de Spider-Punk, un en ce moment et un qui est encore en cours, je crois, et un qui où il y a 13 ou 14 volumes. Okay. C'était il y a deux ans ou un truc comme ça. Qui est joué par Daniel Kaluuya dans le film.
Moi, je veux pas trop en dire, mais la fin.
Bah, par contre, j'aime pas les cliffhangers, moi.
Moi non plus.
Ça m'énerve.
Surtout sur un film, moi je suis pas corda.
Je savais pas, moi, qu'il y avait un cliffhanger, en fait.
Moi, je suis pas corda, non. Tu vois. Parce que ça veut dire le film, en fait, à moins que tu mettes partie 1 ou tu sais.
Ouais, c'est ça. Fallait
si
nous
tu
prévenir.
Mets partie 1, enfin, bah, vas-y, c'est normal, alors c'est comme une série, comme un truc. Je sais que Othello, toi,
je crois que j'avais lu quelque part, c'était en deux. Enfin, qu'il y avait deux autres films.
Je sais pas, c'est pas. Mais oui, annoncé, ouais. Ça veut dire, t'es là.
Puis si t'as pas l'info, c'est dur. C'est dur de fou.
On va pas dire sur quoi ça se coupe. Bah,
mais c'est pas un petit cliffhanger, quoi.
Mais non frère.
C'est pas genre, est-ce qu'il va avoir assez pour payer son loyer, quoi.
Juste avant l'épisode final de la saison, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une dingue.
Et genre, en plus, ça coupe vite.
Mais oui,
en plus,
oui
ouais, coup,
c'est direct, c'est crédit, t'as l'impression. Tu vois, dans les films ou les séries, ou je sais pas où on a pu voir ça, mais tu sais, quand ils font des faux crédits, des faux génériques pour en fait continuer derrière, faire genre c'est fini. Je me suis pris un truc comme as. Sauf que c'était vraiment la fin, les lumières qui s'allument dans la salle, fin de chantier.
Ils auraient dû appeler ça, moi je trouve qu'ils auraient dû appeler ça part 1, part 2.
Ah ouais, moi
de la même manière, tu sais, que quand, par exemple, je me souviens, tu sais, genre Harry Potter, ils avaient fait ça, tu sais, pour faire durer les deux derniers. Et comme on m'avait prévenu. Ouais, tu sais, il y avait un cliffhanger, je m'attendais, c'est bon, quoi, tu vois. Mais là, tu sais, on me le dit pas. Enfin, ils ont tous des titres différents. Le premier, c'est.
Le premier, c'était Into the Spider-Verse.
Into the Spider-Verse.
Cross, en plus.
Across the Spider-Verse, le deuxième. Et le troisième sera Beyond the Spider-Verse. Et en plus, ils ont annoncé que, tu sais, comme ça prenait hyper longtemps, parce que c'est un travail énorme, qu'ils ont mis rien qu'un an pour juste animer Hobbit. Spider-Punk.
C'est vrai.
Et bah du coup, genre que ça allait être repoussé de, c'était repoussé de oui, un an et demi ou un truc comme
parce
ça.
Parce qu'à la fin, c'est dit ça arrivera en mars 2023.
Oui,
perso, j'ai vu ça, je fais oui. Oui.
Je crois que ça a été repoussé à un truc genre début 2025 ou un truc comme ça, ou fin 2024. Enfin,
tant
tu
que
vois.
C'est bien, t'as vu.
Oui, bien sûr.
Je suis prêt, hein, franchement.
Que ce soit en 2033, je serai assis avant la première. Ouais, pas de soucis. Mais c'est vrai que c'est dur, c'est dur, c'est dur.
Je fais un petit tour du coup des films. On a eu, rappelle-moi le tien.
Donjons et Dragons.
Donjons et Dragons. On a eu Babylone et on a eu Spider-Man. C'est quand même un sacré trio.
C'est ouais, ça. C'est
on,
pas j'en les. Ai vu que deux sur trois. Différents. Moi aussi.
Ouais. Toi, t'as vu les trois?
J'ai vu les trois. J'ai vu les trois. Ça
passe. C'est difficile. Cinépass.
Vraiment. Encore une fois, Cinépass. On va jamais trop en parler.
Ah, c'est pâté maintenant.
Ouais, c'est devenu. J'ai vu pâté. Pour ceux qui sont à Nantes, le Gaumont de commerce est devenu pâté.
Pâté maintenant.
C'est fini. C'est fini.
Gratuit. Moi, c'était très gratuit.
Ouais. Les prix sont les mêmes.
Sont les mêmes. Et par contre, il y a beaucoup plus de bornes et beaucoup moins d'employés présents, même pour les trucs de popcorn. Ouais. C'est des trucs qui sont déjà faits et tout. Genre,
il y a des
j'ai
gens qui se sont fait virer, tu veux dire.
Et, c'est sûr. Je pense qu'ils ont.
Et on ne va pas parler de ça. On va pas parler de ça quand même. Pauvre pâté.
Attends. Ah putain. Bon. On est déjà à 50 minutes d'émission, de podcast, mais on a quand même un peu de temps. De toute façon, on a le temps qu'on veut, en fait.
Hein. Oui, pas... ça va durer 6 heures si vous voulez.
Qui peut nous stopper? Qui peut me stopper, même, j'ai envie de te dire.
Viens de loin. On va faire les choses bien.
Moi, je vais parler de ma série parce que je ne vais pas en parler longtemps. On en a déjà bien parlé dans l'épisode 3. Vous pouvez vous référer à ça. C'est sorti en juillet, si je ne me trompe pas, le 12 juillet, je ne sais plus quand exactement, mais bref, c'est disponible. Et là, c'est la série dont je vais parler, moi, c'est Dave, parce que j'ai regardé très peu de séries dans cette première moitié de 2023, et on en a vraiment beaucoup parlé, c'est avec le rappeur Lil Dicky. Il y a 4 saisons, et la 4e saison date...
3 saisons.
3 saisons, la date de cette année. C'est une énorme saison, la 3e. Moi, je mets un point particulier sur l'épisode, je pense 3, je crois, je sais plus exactement, mais celui où il tourne un clip, c'est une dinguerie cet épisode là. Il tourne une série en train de tourner un clip dans la, tu vois, en gros dans la série, okay. Il tourne un clip et c'est filmé que dans des plans séquences en plus. Franchement, c'est trop lourd, gros. Même ce que ça raconte et tout, j'ai tout kiffé.
Je me demande si c'est pas le gars aussi, celui-là qui a réalisé le même que Atlanta, Hiroshi.
Hiromori.
Hiromori. Ouais.
Okay. Et vraiment, gros, la réalisation de cet épisode, je te jure, c'est une claque. Okay. Tu regardes ça, c'est la folie, tu vois. Et après, même, je mets un point aussi sur le dernier épisode. Tu l'as vu depuis ou pas du tout? En vrai, c'est une dinguerie.
Je m'attendais pas à ce que ce soit ce type de guest.
Ouais. Moi, j'avoue, je l'ai spoilé, je crois, pendant.
Oui, tu l'as dit tout à l'heure, vite fait.
J'ai totalement spoilé.
Mais tu l'as dit vite fait, donc si vous avez pas fait gaffe.
Si vous avez pas capté, ne revenez surtout pas en arrière. Au pire, je biperai, t'as vu. Mais voilà. Donc, moi, j'ai rien de plus à dire sur Dave, parce qu'on en a trop parlé déjà. Mais c'est une bête de série. C'est sur l'histoire d'un rappeur et sa carrière, et c'est une série de vie. Et puis, on le suit dans ses mésaventures avec les femmes, avec sa carrière de musique. On le suit dans sa vie, en vrai. C'est très drôle.
Si vous avez pas écouté le
Othello, Othello est toujours pas convaincu de regarder, apparemment.
Si, il faudrait que je le regarde.
Mais
je sais qu'un jour il le fera. Oui, et j'espère que vous le ferez aussi. Il y a 3 saisons, c'est disponible sur OCS, je crois. Donc, Canal en ce moment, même si ils vont peut-être perdre les droits un jour.
Je sais pas qui le distribue. Ouais.
Mais sinon, pirater, les gars.
C'est FX, par contre.
Sauf les films, allez les voir au cinéma.
Ah, vraiment. Donc voilà, moi c'était Dave pour moi.
Moi, en vrai, ça va être très rapide aussi. C'est une série, j'ai pas énormément de choses à dire, mais ça reste. C'est une série de confort, c'est une série trop agréable, et c'est la 2e saison en plus, donc c'est techniquement.
Je suis en train de la regarder en ce moment, moi.
C'est trop satisfaisant, c'est Abbott Elementary. C'est une série qui est juste. Qui est cool à voir, parce qu'on parlait des sitcoms la dernière fois, et pareil, c'est vraiment. Une série très sitcom, mais très récente, je trouve. Les références sont récentes.
Ouais, c'est de la sitcom. Pour moi, c'est dernière sitcom, enfin la dernière sitcom moderne.
C'est un format
The
Office un peu, hein.
C'est ça.
En vrai,
ouais, c'est ça.
Pour éclaircir un peu le truc.
C'est vrai.
C'est un faux documentaire, du coup, sur une école à Philadelphie.
Voilà, une école publique où ils n'ont pas d'oseille, avec des profs de tout âge. Il y a même l'acteur de Tout le monde déteste Chris.
Exactement.
Rien que pour ça, pour ceux qui ont regardé cette série-là à l'époque et tout.
Et qui est.
Moi, personnellement, c'est exactement une raison de pourquoi j'ai cliqué. Okay. Quand il y a ce gars-là, je regarde. Il me fait kiffer, j'ai des bons souvenirs avec eux.
J'étais content de voir juste Quinta Brunson, une meuf que je suis depuis assez longtemps, faire enfin une série qui marche.
La
personnage principal qui joue réalisatrice, créatrice, qui est l'actrice principale. et son ex-petit copain, du coup, spoiler, qui est joué par Zach Fox, qui est un de mes humoristes préférés, un de mes rappeurs préférés en ce moment aussi. Et tout est satisfaisant dans la série. Les enfants jouent bien. Moi, je sais que c'est un épisode qui m'a grave perturbé.
Mais surtout, là, je suis en train de théma. Il y a un épisode qui m'a fait penser à Community, d'ailleurs, de ouf.
C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi.
Et c'est les bonbons d'Halloween, là.
Ouais, ok, ouais.
Gros,
ouais.
On dirait un épisode de Community. Clairement. 100%, frère. Et dedans, les enfants, ils jouent, quoi. Il y a un enfant Thanos, il y a un enfant concierge.
C'est vrai, oui.
Qui reprend le perso.
Et c'est des jeunes. Il est très doué, l'enfant concierge, qui reprend le concierge.
C'est ça. Genre, c'est pas des gamins de 12, 13 ans, tu dis, ils ont plus. Non, c'est des enfants, quoi.
C'est ça. Les Américains, vraiment, sur ça, ils nous ont toujours.
Une vitesse sur ça.
C'est trop grave.
C'est terrible. Pour ça, pour moi, voir une série avec des enfants qui jouent bien, je le conseille à 100% cette
L'épisode des bureaux, tu sais, où ils montent sur les bureaux, c'est... celui-là m'a fait très penser à Community aussi. Ouais, je sais pas si c'est la saison 2, ça. C'est ça.
Je crois que c'est saison 2.
C'est saison 2, ouais. Ça. Et où ils appellent ça Desking.
Ouais, c'est ça.
Et d'aller de bureau en bureau, de desk en desk.
C'est lourd. Moi, franchement, s'ils vont là-dedans, je suis totalement
là. C'est un épisode un peu débile.
Community n'existe plus.
C'est le plus proche.
En attendant le film.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est vrai que c'est le plus proche, mais tout en étant quand même. Plus sitcom, plus proche de The Office.
Oui, largement. Je trouve qu'il y a méta, le côté, ouais, c'est ça un peu, où ils vont pousser les délires à 100% avec des trucs en mode, oui, bah, tous les enfants vont de bureau en bureau et ils disent rien à personne et c'est un peu un truc secret qui est sur les réseaux. Et en même temps, et ça fait très Community d'avoir des trucs secrets avec des personnages secondaires, mais qui pourtant sont aussi importants par épisode. Et en même temps, des trucs très The Office avec des romances, avec des personnages qui ont des vraies émotions, avec des morales à moitié un peu à la fin de chaque épisode. Qu'il y a dans Community, mais qui perd un peu au fil des saisons, tu vois. Alors que The Office, plus ça avance, plus limite, c'est que ça, quoi. C'est leur relation entre les persos.
C'est leur relation humaine, ouais. Grave.
Et du coup, non, c'est. Moi, plus une série sur les écoles, c'est un peu un truc. C'est pas un truc que je vois souvent. Et du coup, je trouve que ça a changé un petit peu. Et c'est une ville en plus qu'on voit pas souvent. Aux États-Unis, les séries, ça va être des LA, c'est des New York. Et là, c'est Philadelphie. Je connais pas grand chose de la ville.
Bah, quand même, la Prince de Bel Air.
Ouais, mais tu vois, t'as LA encore.
Comment s'appelle la Real?
La Real Quinta Brunson.
Elle, quand elle se déguise en James Harden pour Halloween, là, frère, ce costume. La go, elle fait 1m50.
C'est trop drôle.
Elle est tressée, plaquée, avec la grosse barbe. Gros, je te jure, j'ai rigolé premier degré, c'est vraiment.
Ça. Et c'est trop. Ça fait du bien d'avoir une sitcom où tu rigoles sincèrement. T'as vraiment, un vrai rire franc, pas un truc où tu souffles du nez.
C'est pas prise de tête et en même temps, c'est fin.
C'est ça, exactement. En fait.
J'ai l'impression qu'il y a eu un manque de compréhension sur le prince de Bel Air juste avant.
Il
vient de Philadelphie, mais après il est à Bel Air, c'est vrai.
J'avais la rêve. Okay. Mais non, mais c'est ça, on n'a pas.
Moi, j'ai pas de problème autour de cette.
Tout va bien.
Il y a pas trop de.
Mais non, mais c'est. Je sais pas, Philadelphie, c'est pas une ville que tu vois souvent, quoi. Donc c'est cool, un peu, tu vois, de.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Une série sur.
Mais c'est marrant parce que Dave, je crois que c'est à Philly aussi. Enfin, il vient de Philly aussi. Ça, il va à LA et tout, ce qu'il a plus d'oseille.
Je crois que c'est une grosse ville.
C'est un gars de Philly parce que, tu sais, il fait que de parler de Mick Mill.
Mais oui, c'est vrai, oui, c'est ça, d'ailleurs. Et c'est vrai que Philly, c'est vrai que Mick Mill, c'est aussi.
Ouais, c'est un gars sympa, là où ça soulève des motos.
Exactement, comme ça fait des wheeling en quad.
Exactement.
Non, c'est une grosse ville, Philly, mais c'est pas une ville qu'on filme beaucoup, quoi. C'est pas la base de beaucoup.
C'est les petites villes des États-Unis.
Et puis tu sais, ça a pas une très bonne réputation. Tu sais, c'est un peu comme Boston. Tu sais,
oui,
c'est
genre
des endroits où tu sais les fans de sport sont durs à vivre, les machins. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est là où il y a des
censé bah, faut être des, un peu fou pour
des
être
caractères
de Boston,
qui sont un peu. Tu vois ce que je veux dire.
Les fans des Boston Celtics, c'est pas la dinguerie, quoi. On rigole. On aime bien.
On rigole bien. De quoi on vient de parler exactement, tu m'as
et
dit.
Et du coup, je disais Abbott Elementary. Donc ouais, moi je conseille. Ouais. C'est vraiment une série confort, quoi.
Et pareil, c'est pour tout le monde peut regarder et avoir différentes lectures du truc.
Ouais.
Vous n'aurez pas honte à regarder ça avec quelqu'un de famille.
C'est ça. Expo sur Disney Plus.
C'est vrai. En plus, vraiment la plateforme de la famille.
C'est ça. C'est la plateforme de tout le monde.
Ouais, je te jure. Vas-y, Loco, hein, à toi, mets un point final à ces séries.
Et moi, la série dont je voulais parler, qui est pour moi la série de l'année, et pourtant, à la base, je voulais pas prendre un truc qui vient d'un grand univers, déjà, machin, parce que c'est avant, on a parlé de Spider-Man, même si c'est pas vraiment le MCU, tu vois ce que je veux dire. Et comment. Mais malheureusement. Heureusement,
bien,
enfin, tant pis. je voulais parler de Andor. Une série de Star Wars, mais qui se passe pas dans la même temporalité qu'on a maintenant. C'est plutôt ça se passe à l'époque des vieux films. voilà, des premiers de toute cette période.
Première trilogie
Star, ouais, okay. Première trilogie, exactement. Où il y a l'Empire contre-attaque, ouais. Le retour du Jedi et tout ça.
Avec Luke,
voilà. Et ça se passe un peu avant Rogue One, du coup. Ça sert à un préquel à Rogue One, en fait, le film. Et on suit un des personnages qui a été intégré d'ailleurs dans Rogue One. Donc ça, Rogue One, globalement, est le seul, et encore, même si vous ne l'avez pas vu, c'est pas très grave, mais c'est un peu le seul film dont il y a besoin de,
d'avoir
regardé
avant. Où tu as des références assez fortes.
C'est ça, ouais. en dehors des vieux films, mais en vrai, tout le monde les a quand même globalement vus.
Si Star Wars vous parle, vous avez vu.
Et en fait, là, c'est complètement contre-pied de ce qu'on a d'habitude, un peu, où là, ça a été pas mal critiqué à ce niveau-là. Beaucoup de glub shit of moment. C'est quand il y a des personnages que les fans vont reconnaître,
oui.
C'est
des placements,
en fait c'est du fan service, ouais, beaucoup de fan service. Là c'est pas du tout un truc de fan service, c'est une série qui est plutôt sombre, qui est très politique, avec un message
qui m'a assez surpris.
C'est ça qui, en fait, c'est que ça, moi je comprends, enfin j'ai du mal à croire que Disney ait laissé
sous
faire
Disney,
ça.
Sous Disney, ouais,
fait.
C'est ça. C'est fou.
Il y a des moments où c'est tellement flagrant que je me disais, mais c'est dingue qu'il laisse faire ça. Après, c'est peut-être une stratégie justement de.
Oui, c'est peut-être une
washing,
Barbie un peu.
Exactement, ouais, tu vois ce que je veux dire.
Barbie.
Du woke washing, pour affronter le mot.
Mais en fait, tu parlais tout à l'heure de. En fait, juste, je vais parler du pitch vite fait avant.
Oui, ouais,
en fait, comment tu suis un personnage qui est dans la résistance. Et qui est pas, c'est pas, il y a pas du tout de Jedi dans cette série, il y a pas de personnages super connus, de gens avec la Force, machin. C'est une série où en gros tu suis un mec qui est pas dans la résistance au début et qui va être un petit peu forcé dedans.
Okay.
Et en gros tu suis tout ce qui lui arrive en fait. Et l'Empire est horrible, mais la rébellion fait des choses horribles pour pouvoir, tu vois, c'est très gris en fait, il y a pas de vrai grand
méchant.
Oui, c'est
méchant. Pas méchant gentil, c'est ça. Bleu rouge, ouais.
Exactement, et du coup ça change vraiment dans l'univers Star Wars, aussi le fait qu'il y ait pas de Jedi, de machin, du coup c'est beaucoup plus sérieux,
plus ancré, limite
plus ancré, ouais. C'est ça. Et il y a deux, justement, tu parlais de scènes tout à l'heure d'acting qui t'ont marqué cette année. Et moi il y en a deux en fait dedans. Il y a un personnage justement qui s'appelle Nemik, qui écrit un manifeste. Donc, okay. Vous voyez ce que c'est, un manifeste
Pas vraiment, moi.
C'est un peu une disserte.
Expliquer
sur
une idéologie, une idée, un truc.
Ouais, voilà, sur une.
Résumer, en fait, une idée.
Et du coup, lui, il écrit un peu un manifeste sur l'idéologie de la rébellion. Et la scène où il le lit, machin, où il parle de ça, c'est une scène, le manifeste de Nemik. Vous pourrez trouver sur YouTube. Qui est vraiment, mais genre, je m'en souviendrai toute ma vie de cette scène-là. Et il y en a une deuxième aussi qui est. Aussi un monologue par le, comment il s'appelle, c'est le père des Skarsgård, tu vois, c'est la famille Skarsgård qui sont tous des acteurs, tu sais, il y a Floki, il y a machin, il y a Alexander Skarsgård qui a joué dans The Viking ou je sais pas quoi, là, le truc récemment, là.
The Northman,
voilà, exactement. Okay. Et il y a leur père, tu sais, même c'est lui dans Thor. Le docteur. Et bah lui, il est dans Andorre. Il joue un des chefs de la rébellion.
Et l'acteur principal, je crois, c'est Pedro Pascal.
C'est Diego Luna.
Diego Luna.
Donc qui est aussi dans Last of Us, le frère de Pedro Pascal.
Ok, c'est pour ça que je confonds.
C'est ça. Et lui.
Piston frère.
C'est ça. Et lui, gros, et bah le père Skarsgård, je sais plus comment il s'appelle. Et bah à un moment, il a un monologue en fait sur les nécessités, les dingueries qu'il a été obligé de faire en tant que chef de la rébellion, et le fait qu'il a été obligé un peu de vendre son âme sur certains trucs et tout. Et cette scène, elle est tellement intense en fait, genre c'est un des monologues qui m'a le plus marqué dans toute ma vie depuis que je regarde des films, des séries, en fait.
C'est fou d'arriver à faire ça dans l'univers de Star Wars en 2023.
En 2023. Trouver
des moments impactants avec des personnages impactants qui ne sont pas rajoutés en plus à la fin.
Il y a juste. Non, il n'y a personne de rajouté, de connu. Il y a tout un épisode aussi qui se passe avec. Comment il s'appelle? C'est Gollum, l'acteur.
Ok.
Gollum.
L'acteur le plus scanné de l'histoire.
Voilà, Ulysse Klaue dans les Marvel, machin et tout. Là, et lui, il est du coup là, pas scanné, il joue. Enfin, tu sais, fois c'est le vrai machin, et ça se passe dans une espèce de camp de prison qui est aussi une usine de l'Empire. Et cette critique là, gros, tout ce truc, c'est une critique du capitalisme, de machin, du fascisme et tout. Et genre, déjà c'est fait de manière exceptionnelle, cet arc qui dure peut-être 2 ou 3 épisodes. Genre c'est un arc incroyable, alors qu'il se passe pas grand chose en soi.
Qu'est-ce que ça raconte,
c'est dingue, vraiment. Le suspense, c'est incroyable et tout, alors qu'il n'y a pas de scène d'action.
Okay.
Et comment et ce truc-là, je me suis dit, mais c'est fou que on les ait laissés faire en fait.
Ouais, qui a permis de financer un
truc. T'as eu l'impression de regarder un show que t'avais pas le droit de voir, quoi, limite à la fin.
Non ouais, enfin c'est ça presque. Tu sais, genre, c'est... non mais j'avoue, j'ai eu presque ce truc-là.
Un truc qui aurait dû être annulé en fait.
Ou un truc qui aurait pas dû être fait par ça, tu vois, qui aurait pas dû être fait par.
Disney,
pas par Disney. Un fan film, fan série. Ouais, c'est ça. En plus, le budget, c'est ce qui a eu la série qui a coûté le moins cher en termes de budget, et pourtant c'est la plus longue. Il y a 13 épisodes, alors que dans les autres séries Star Wars, il y en a 8 la plupart du temps.
Okay.
Et là, il y en a 13 ou 16 même, je ne sais plus. Et parce que c'était aussi, comme tu disais, beaucoup plus pratique, beaucoup plus du décor pratique, beaucoup moins de CGI en soi. Parce que
t'as pas un Baby Yoda animé.
C'est ça, il n'y avait pas tellement... Bah, après, Baby Yoda, c'est une marionnette, sauf dans les...
Très mauvais exemples.
Mais voilà, quand même, enfin, tu vois.
Terrible exemple.
Mais voilà, c'était vraiment... C'est vraiment unique en fait, et ça fait un peu unique dans les séries qu'il y a eu cette année dans cet univers-là en particulier.
Et produit par cette boîte de production, ouais, c'est ça. Voilà, qu'il y a trop de... Normalement, il y aurait eu trop d'embûches pour cette série pour qu'elle arrive. C'est ça qui est fascinant.
Et du coup, ça a cartonné même avec des gens, les non-fans de Star Wars ou les fans de Star Wars désabusés aussi, juste les fans de cinéma en fait.
Ceux qui ont aimé que le 4, enfin le premier,
c'est ça.
Okay. Et ils ont pu s'y retrouver quoi.
Et sans dire en trop la fin, est-ce qu'il y aurait une suite?
Il y aura une saison 2.
Ok.
Et en fait, après, de toute façon, c'est pas un spoil parce que c'est acté. Enfin, la série se finit au début de Rogue One.
Okay,
parce que Rogue One, si vous avez vu Rogue One, il y a une fin qui ne peut pas donner de suite.
Oui, bah oui, c'est ça. Voilà,
c'est
okay.
Pour pas spoiler plus que ça.
C'est lourd. Ça veut dire qu'en gros, la saison 2 elle va prendre vie. Enfin,
oui, c'est vrai que ça va être dans un autre.
C'est pendant Rogue One. Quoi.
C'est ça. Ce sera juste un peu avant en fait Rogue One, et là le film, le dernier épisode, ce sera le début de Rogue One quoi, en gros.
De la saison 2 tu parles.
De la saison 2, ouais.
D'accord, c'est pas la saison 1 qui est.
Non.
Là... Ok, d'accord.
Et par contre, le faudra attendre un petit peu parce que ça fait partie des séries qui sont impactées par la grève des scénaristes et des acteurs aux États-Unis en ce moment.
Qui pendant le tournage encore. Active, je pense qu'il sera actif pendant encore quelques mois. Mais du coup, tous les scénaristes et acteurs qui sont un peu intelligents sont en grève en ce moment, du coup. Et ça se passe qu'à Hollywood, donc c'est-à-dire que tous les acteurs anglais, etc., normalement, ça va.
Ça, c'est pas touché. Ouais.
C'est pas impacté.
C'est pas le même.
C'est que les Américains.
Ouais. C'est que à Hollywood, en fait, c'est les syndicats des acteurs et des scénaristes hollywoodiens qui sont en grève, en fait.
Okay.
Que tout le monde a un peu suivi. Mais c'est pareil, tous les films qui sortent en ce moment,
C'est pour défendre quelle cause exactement?
Les deux grosses qui reviennent régulièrement, ça va être sur un peu la peur de ce que peuvent faire les studios avec les IA, sur ce qu'ils veulent reproduire, sur les images des acteurs, sur les ressemblances. Il y a eu un tournage, je ne sais plus c'était lequel, où beaucoup d'acteurs ont été scannés sans qu'ils sachent pourquoi.
Ah ouais, sur WandaVision de Marvel, tous les acteurs de background ont été scannés, et du coup ils peuvent être réutilisés à n'importe quel moment alors qu'ils n'ont jamais donné leur
accord. Il n'y a pas de contrat où c'est acté dedans.
C'est dingue,
donc il y a un peu un stress là-dessus. Bon, ça c'est encore en suspens on va dire, mais le truc, le vrai souci principal, c'est des acteurs, je vais donner un exemple pour que ce soit direct, une actrice qui a joué dans la série En prison avec En prison pour les femmes,
Orange is the New
Black, qui du coup la série, par exemple la saison qui est sur Netflix actuellement, qui tourne encore, que vous pouvez regarder, elle est payée par année je crois ou par mois 16 centimes.
En fait, c'est que c'est ça en fait, c'est que
par épisode quoi.
Avant il y avait en fait un truc qui s'appelait les résiduals.
C'est ça, je sais pas comment traduire en français.
En fait, les résiduals, c'était un truc où quand une série ou un film dans lequel t'avais
joué
dedans, et diffusé,
repasser à la
télé,
etc.
Une partie d'argent en fait, tu touchais quelque chose. Et là maintenant en
comme
fait
des droits d'image,
c'est ça en fait.
Sauf que là maintenant ça fonctionne plus comme ça. Les séries, les plateformes genre Netflix machin, elles achètent le droit à la boîte de production, et après une fois que ça s'est fait en fait, il y a plus de ils ont plus à payer de résiduels aux acteurs qui sont dans le film.
Ou alors
c'est en dehors.
16 centimes, c'est rien, quoi. Tu peux pas vivre de ça.
C'est ça, en fait. C'est que du coup, tout ce qui vient du streaming ne rapporte aucun résiduel aux acteurs.
Ok, d'accord.
Alors que, c'est ce que disait l'actrice, genre, il y a encore ma tête dedans.
C'est ça, il y a encore ma tête dedans, partout, c'est partout. Mais sauf qu'en fait, toi, t'as été rémunéré pour les diffusions, les premières diffusions, pour la partie ciné, machin, tout ça. Puis après, une fois que c'est racheté par une plateforme de streaming...
Oui, ils rachètent les droits, en fait, et ça leur appartient.
Alors qu'avant, quand, ça passe, quand un film passait à la télé ou un truc comme ça, et bah tac, ça c'était comme la SACEM, tu sais, quand t'as un son qui passe à la radio, machin, tu connais bien. Et bah du coup, là, ça c'était... Ça fonctionnait comme ça, sauf que du coup, là, les acteurs, ils qualifient plus suffisamment pour avoir suffisamment d'argent pour avoir l'assurance... santé, en fait, le minimum
oui,
santé.
Ah oui, okay, tu peux pas payer ton loyer non plus quand tu es à Hollywood, en fait, quand tu es à Los Angeles, parce que...
Et du coup, bah, en fait, là, il y a des acteurs qui sont de plus en plus payés, des acteurs très très connus.
Même des Will Smith.
Mais par contre, le milieu et les gens en bas, en fait, et bah, eux, ils peuvent plus manger avec leur boulot, en fait. Ils peuvent plus se loger.
Will Smith peut vivre de tout, tu vois, ça va.
Mais pas,
tu vois. Un background.
Ouais, c'est ça.
Mais même des gens
tous les acteurs où t'as pas le nom... Par exemple, dans tous ces autres films qu'il a pu faire, dans, je sais pas, à la recherche du bonheur, tu vois, la personne, à la fin, quand il parle, où il vient d'avoir son taf, c'est un acteur aussi. Mmh. Lui, il aura peut-être pas de thune de ça, tu vois. Ou alors, ça va être ce genre de personne où, bah, j'ai plus le nom, tu sais, genre, tous ces acteurs-là.
Mais même, tu voyais des mecs, des gars, des gens qui étaient super connus, genre Orlando Bloom, machin, qui était payé. Rien pour juste, tu sais, genre
ça, le Seigneur des Anneaux,
par exemple. Ouais. Et après, eux, en fait, ils ont fait de l'argent sur les résiduels qui sont,
c'est un petit peu.
Et encore, certains, choisis, comme c'est des jeunes acteurs, souvent qui sont pas connus, je crois que c'était le cas de Orlando Bloom, ils préfèrent prendre un cachet qui est un petit peu plus élevé que ce qu'on leur propose.
Sur le moment.
Et en échange, ils ont pas de résiduels, par contre, du coup, ils sont pas
payés. Ouais, je capte.
Et du coup, c'est vrai que bah, là, c'est. Et là, ça va avoir un vrai impact sur les. En fait, comme la grève de scénaristes qu'il y avait eu en 2004 ou 2007, je sais plus.
2007,
qui avait eu en gros la naissance, un peu le rise de la
télé-réalité.
Ça existait parce qu'en fait, il n'y avait plus de série à passer. Et en fait, okay, du coup, ça, c'était des trucs que tu pouvais faire sans scénariste, sans écrivain.
Ouais, normal.
Et du coup, bah, y a des trucs comme The Loft, machin, qui ont explosé. Mais avant, il n'y en avait pas tant que ça. Et là, en fait, on est sur le même genre
de situation,
en fait, sauf que ça concerne que les syndicats américains. Et du coup, par exemple, tout ce qui est. Anglais.
Ouais.
Ce sera tout ce qui est BBC par exemple, il n'y a pas besoin. Ce qui va être. Enfin, House of Dragon, le spin-off de Game of Thrones.
Ils peuvent tourner en partie aussi.
Ce sera qu'avec. C'est quasiment que des acteurs anglais, des scénaristes anglais.
Mais ça les a fait quand même dans le sens où, par exemple, même les acteurs ne peuvent pas faire de promo de le film. Donc là, t'as Dune 2 qui va sortir, t'as Wonka qui va sortir. Tant que la grève est là, t'auras pas Timothée Chalamet pour pas l'interview, tu vois. Du coup, pour vendre ton film.
Et là, par exemple, ça veut dire on les a vus pour Barbie, là, en promo et tout.
C'était juste avant. Parce que ça avait commencé avec les scénaristes. Et là, c'est les acteurs qui, il y a quelques semaines, ont sont rajoutés aussi. Mais par exemple, là, le film qui a été lancé au moment où la grève des acteurs est lancée aussi, c'est Maison Hantée.
Ok, ouais, zéro promo.
Il y a zéro promo, t'as aucune interview. Et le film ne marche pas du tout. Alors après, un film.
Oui, je pense que ça aurait été peut-être un flop.
C'est ça, un film d'horreur. Après, il y avait un.
Après, il y avait un cast qui permet. Eux, je pense que s'ils avaient pu faire la promo, ça aurait aidé, tu vois.
Et un film d'Halloween en
août. La cover a fait penser à. Tu sais, les 999
films. Mes films préférés.
Avec Will Smith. Eddie Murphy.
Un de mes films.
C'est pour ça que j'ai envie de le voir, moi. Parce que j'aime beaucoup Lucky Stanfield et il y a un peu cette énergie-là, j'ai l'impression. Mais vas-y, c'est un film. C'est un film.
C'est bizarre de le sortir là.
En août, déjà, c'est un film d'octobre.
Et du coup, mais il n'y a aucune promo sur ce film. Donc c'est pour ça, les séries à venir, ça va être compliqué. Et c'est ça, genre, pour la saison 2 d'Andor, ça va être compliqué. Là, il y a des films qui ont été annoncés qui vont sortir, mais la Warner, je crois, a annulé beaucoup de sorties de films parce que si t'as pas de promo autour avec les gens. Direct, c'est hyper compliqué.
Ils sortent quand même Blue Beetle, la Warner, avec DC, sauf qu'ils peuvent, pareil, déjà que c'est pas un film, enfin c'est pas un personnage connu, un film qui est facile à vendre déjà.
C'est ça.
Et là, ils peuvent pas faire de promo du tout, du coup, celui-là, il va être, je pense
qu'il va flopper aussi.
Ça va être un flop énorme.
Donc, ouais, non, c'est assez compliqué.
Force, hein.
Ouais, c'est ouais. Force aux grévistes.
Évidemment. Ouais, c'est toujours. Ça, putain. Parce que, en l'air ou quoi, les gars?
Dans la rue. Dans les boîtes de prod qui se disent plutôt on va préférer qu'ils soient là, littéralement SDF, avant de leur donner leurs droits.
C'est sûr.
Il y a un combat en ce moment vraiment qui se fait, ça attaque vraiment.
Ils vont attendre.
Ça, c'était une phrase de Bob Iger.
Le PDG de Disney. Qui disait, il avait vraiment dit j'attendrai ce qu'ils soient SDF pour qu'ils reviennent travailler.
Arrête.
Ouais.
C'est pas son.
Et il y a l'acteur de Hellboy et tout, de Son of Anarchy, Ron Perlman, le plus vieux.
Exactement.
Il a menacé quasiment. Il a dit c'est dingue ce que tu dis et tout, mais on sait le truc c'est qu'on sait qui t'es et puis on sait où t'habites et tout, donc ce serait, il y a plusieurs manières de perdre sa maison
Arrête, il a dit ça comme
ouais.
ça.
Ouais, non, ça se tape vraiment.
Il a dit ça. Une bonne plainte.
Il y a plusieurs manières de perdre sa maison. C'est avec sa grosse voix là, en
ouais,
plus.
Ouais, ouais, ouais,
sa grosse majeure. J'aurais vraiment
pas. Sa grosse
ouais, je serais pas rassuré.
De fou.
On va finir en musique, les gars, je crois. Je crois que c'est l'heure. Loco, tu commences ?
Je commence ?
Ouais.
Moi, du coup, je voulais parler de. Enfin, moi, l'album. C'est un des albums de l'année, parce que c'est compliqué pour moi de faire des albums de l'année.
La musique,
des
c'est
top.
Dur.
Ouais,
la
j'ai vraiment du mal. Dur. En plus, c'est par période, beaucoup. Tu découvres, des fois, t'écoutes des trucs beaucoup en 2023, mais qui sont au final sortis en 2022. Donc, moi, je voulais essayer de garder.
C'est pour ça qu'on fait un top, mais on fait pas de classement.
Plus ou moins.
Vas-y, on envoie ce qui nous a marqué le plus, on va dire.
Et du coup, moi, je voulais parler de Paris Texas, leur album qui s'appelle Midair. C'est un peu un duo de. C'est du rap alternatif, un peu punk, un peu décalé, qui a eu beaucoup de buzz, on va dire, dernièrement, en fait.
Ils viennent d'où, Paris Texas ?
Je sais plus exactement. J'ai envie de dire Paris-Texas, mais non, je pense pas.
Pour la vague. Ouais.
Je pense pas.
Il y a moins qui viennent du sud, par contre.
Je pense. Il y a une vibe de ce truc-là.
Mais c'est vrai que c'est très particulier, même en vrai, dans leur ambiance.
C'est ça, il y a un petit côté... Gene Dawson aussi, des gars qui font des... En fait, qui mélangent... qui ont clairement une culture hip-hop, en fait,
c'est
mais
ça.
Qui ont y intégré des trucs un peu punk, un peu déjanté,
ces
un peu décalé.
T'écoutes le son et t'es pas capable de vraiment de donner
non, il y a un petit côté, tu vois, genre, aussi, tu peux rejoindre des trucs comme des Danny Brown, des Hill Hoppers, des
ouais,
trucs
c'est
un
ça.
Peu, tu vois.
Ils changent en plus à chaque son.
En fait,
son.
C'est des mecs, ils aiment bien se définir en disant que c'est du rap pour des rejetés, un peu pour
des outcasts.
Ouais, exactement, voilà, c'est ça, j'ai pas la traduction de outcast. Mais voilà, c'est ça.
Des alternatifs.
Et du coup, l'album, il est particulier, mais il est vraiment bien, bien produit. Il prend pas mal de risques, il y a quelques feats intéressants. Voilà. Et les visuels, tous les clips sont hyper bien.
Ouais,
ok. Je viens de voir, ils viennent de Los Angeles.
Los Angeles.
Ok, d'accord. Ouais, le sud de Los Angeles, en tête. C'est ça que je voulais dire.
Non, mais parce que, voilà, mais sinon, parce que Paris, Texas, c'est un vrai endroit.
Ok.
Il s'appelle Paris,
en
au
fait,
Texas.
Là, c'est en référence à un film de 84, un road movie Paris, Texas.
D'accord.
Voilà.
Il faudrait que je l'ai jamais vu.
Et ils disent que leur travail ressemble à Outkast, King Krul, Cities à vivre. Moi, je connais pas ça.
King Krul, je peux voir un peu.
King Krul, je connais, mais Cities Aviv, en fait, je sais pas ce que c'est ça.
Mais dans c'est vrai que c'est très déconstruit. Des fois, il y a c'est des ça. Changements de beat, de machin. Et c'est vrai que King Krul, même dans son. Il a toujours un peu fait ce genre de truc.
C'est ça.
On va écouter Everybody's Safe Until de Paris, Texas, dès maintenant. Bienvenue. There's people trying to kill me. Other than me. There's people. Trying to kill me. Other than me. There's people trying to kill me. Other than me. My heart is like a drum. Pum 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 bum. I can't say what I want. My conscience weighs a ton. There's nowhere I can run. I thought it would be fun if I grab everyone inside the room and. C'est marrant, dans l'énergie, ça me fait penser à Baccar. Tu vois,
ah ouais, grave, ouais, un petit peu. C'est ça, sauf que Baccar, c'est beaucoup plus british.
Ouais,
en fait, c'est ça.
De ouf,
et après, il y a un changement de beat, mais on peut pas, parce que sinon, ça va pour les histoires.
Faudra aller l'écouter.
Mais voilà, vous verrez, ça part un peu et tout. Bah, d'ailleurs, Baccar aussi, c'est frais. Enfin, il fait ce genre de choses aussi. Des fois, tu sais, des intros qui sont un peu plus longues, des machins.
Ouais.
C'est pas, en fait, des trucs qui se prêtent facilement à... Par exemple, tu sais, le format qu'on a maintenant, de format TikTok, de machin.
Ouais.
Justement, quand j'avais partagé ce son-là sur ma page, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver les 30 secondes que j'avais le droit d'exploiter, qui allaient un peu, parce que comme ça change, tout ça, en fait, ce genre de choses, donc voilà.
Ok.
Othello, tu veux y aller ?
Ouais, carrément. Bah, moi, mon album de l'année, ça reste, c'est une reco que j'ai fait sur le premier épisode, je crois, qui est du coup Scaring the Hoes de JPEG Mafia et Danny Brown. Ils ont sorti un DLC pack une extension du projet avec trois autres sons qu'ils n'avaient pas pu sortir, je pense des droits des trucs de sample, parce qu'il y a un son, je sais plus c'est quel sample, mais il est ultra cramé, je sais pas comment il peut être même
un,
sur les
un
plateformes.
Un peu plus que trois, non, parce que je crois, il me semble, non.
C'est trois ou quatre sons qu'ils ont rajoutés. Mais du coup, on va dire, c'est pour ça que je le rajoute, mais cet album, j'arrive pas à m'en lasser. Je trouve qu'à chaque fois que je le réécoute, il y a des références qui changent, etc. Mais j'avais pas envie que ce soit mon... Je sais que c'est mon album de l'année. Mais vu que j'en ai déjà parlé,
déjà parlé
mon son de l'année, par contre, Ça, je sais, jusqu'à décembre, je vais l'écouter. L'année prochaine, je vais l'écouter. C'est The Hillbillies de Kendrick Lamar et Baby Kim. C'est pas du tout underground, mais ce son-là, en fait... Je trouve ça fascinant du fait qu'il utilisait une prod d'un producteur qui s'appelle Evil Gian, qui produit pour des artistes comme Polo Perks. Je crois qu'il a produit pour Earl. Il a fait un son pour Earl. Et en fait, c'est pas un producteur qui est... C'est de la underground, mais genre d'une partie très précise de... C'est de la trap, mais en même temps, c'est très drill aussi. Enfin, c'est un producteur qui n'est pas sur le devant de fou.
Et qui, du arrive, coup que... qui arrive, là, ça va pas.
Oui, ça va exploser.
Là,
ça...
c'est déjà avec Earl, machin et tout, Making the Bands, là. Ça...
C'est ça. Mais c'est pas un producteur d'un. C'est très SoundCloud, alors que. Mais c'est pas le SoundCloud de l'époque, c'est vraiment un nouveau SoundCloud, je trouve, qui revient avec les inspirations New Jazz, etc. Enfin, toutes ces.
Ça fait penser un peu aussi à l'ancienne, à des gars comme un peu plus justement thrill, comme tu disais, un peu plus drill, machin, mais un petit côté Lil Grimane, c'est des gars qui sont un peu dans leur
c'est
propre...
qui sont dans leur univers de fou, exactement. Et genre qui sont dans leur communauté, et c'est pas des, ça fait pas des vues de fou, ça fait pas des streams de fou, mais il y a une fanbase ultra solide, et du coup Kendrick Lamar et Baby Kim qui arrivent sur ce genre de prod, même si elle fait très classique, bah, y a quand même tout un background derrière du producteur que je trouve hyper intéressant. Et le refrain me reste en tête depuis qu'il est sorti. J'arrive pas à me l'enlever. Je sais pas pourquoi. Les refs, au fait. Enfin, même des Américains qui font des refs à Messi et Neymar. Je trouve ça trop drôle, tu vois. Et non, le clip est cool. T'as Taylor qui est dedans.
C'est ça.
Oui, en plus. Mais avant, c'était pas encore. On savait pas encore quand le son est sorti. Mais ouais, le refrain me reste en tête. Il y a des passe-passe entre les deux. C'est un Kendrick qui me fait plaisir.
Ouais, il s'amuse, en fait, avec son zinc.
Il se prend plus la tête. Il kiffe. Ouais. Il se dit pas, ok, cet album-là, ça va être très compliqué et tout. C'est, il a sorti son en même temps, il a ressorti son Insta privé. Donc, tu sais, t'as un peu, j'ai l'impression d'un relâchement, mais c'est un peu aussi un post-TDE.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Qui est hyper intéressant.
Il est en PG-Lang, là, maintenant, c'est ça. Bon. Ouais,
c'est lui.
Il a ses 4 albums classiques.
C'est ça.
Maintenant, il va enfin pouvoir s'amuser totalement, je pense.
Ouais, donc c'est cool de voir Kendrick depuis le temps.
Ça donne envie d'avoir un album en commun.
Oui,
c'est comme Joe Scott ou tu sais les trucs en commun annoncent, enfin tu sais des rumeurs là, tu vois.
C'est ça. Moi, j'étais persuadé
qu'un jour ce serait d'art.
Le nouveau Kendrick, ça allait être une collab avec Baby Kim, peut-être pas encore, sachant que Baby Kim a annoncé son propre projet, donc je sais pas si peut-être on l'aura pas en plus, mais
peut-être ça viendra jamais. Hein.
Mais je suis toujours content de les voir ensemble parce que t'as l'impression qu'ils se complètent l'un l'autre, et ils sont plaisir l'autre, c'est ça.
Donc on écoute ça, du coup, Hillbillies. Non, c'est Hillbillies.
Hillbillies.
C'est Baby Kim et Kendrick Lamar.
C'est les Redneck un peu. Enfin les...
Non, ça, c'est les Hillbillies, justement. Les Hillbillies, c'est une ref à un film, je crois.
Ah ouais, t'es sûr?
Okay. Ouais, j'ai vérifié, je sens.
Ok, putain.
Let's go. Cologne, Germany. Full McDonald's every time I land, bro. Big J rocks in both hands, bro, and all that. And I'm best dressed, moving forward, yeah. Tiny tats on, yeah, all that. Compton Cowboy, all that, yeah. Big protein, 150 grams of protein. Y'all gotta stop playing, bro, I swear, bro. He gon' fuck up the world, excuse me, but is that your girl? If she tell, that's a good referral. Heebie-jeebie talk crazy to me, but Kendrick know I like irregular girls. I'm not good with the regular girls, damn near want a veteran girl. I just might change your life. We ain't wearing no Giuseppe jeans, we ain't doing none of normal things. So you know what formal means? Critics saying that I lost the plot. Principles, yeah, I'd rather not. Messy, about to come in hot. Je suis obligé de cut.
Oh, incroyable.
Mais Baby Kim, il a une sacrée entrée. Hein.
Ouais.
Sacrée entrée en matière.
C'est ça.
Je crois que j'ai commencé un peu tôt le son parce que je crois qu'il y a à moitié en train de parler.
Ouais, non, il raconte juste. Il va à McDonald's, il fait des petits tatouages.
Mais le refrain, il est trop catchy.
C'est ça. Et en plus, tu mets un sample de Bon Iver derrière. Moi,
T'es client. Tu cliques.
Exactement. J'imagine.
Sur ce son-là, je sais pas pourquoi, mais je suis content que ce soit Kendrick et Baby Kim qui l'aient eu et pas. Je pense que quand il est sorti, Drake, il devait avoir le seum, parce que ça, c'est grave une instru que je trouve.
Ouais,
je trouve.
Il aurait pu l'attendre.
Il aurait grave, tu sais, ça ressemble
c'est
un
pas
peu.
Impossible.
Genre un peu dans son énergie à la Jumpotron shit popping, où c'est juste lui qui rappe.
C'est exactement ouais, le War et tout, là, tu vois.
Oui, ok.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que quand il y a une tendance, souvent, il jette pas ça rapidement.
Il est toujours là.
On verra hein, peut-être dans. Je crois qu'il y a son projet qui sort là. On est le 9 août.
Oui, pour les chiens.
Mais normalement, dans deux jours, vendredi, il y a un projet. C'est ça la rumeur.
Bah, vu que tous les rappeurs décalent leur album bizarrement alors qu'il devait sortir vendredi.
Normalement, il y a For All the Dogs.
For All the Dogs.
Qu'est-ce qu'il est relou, lui, frère. C'est une dinguerie.
J'adore que tu lis ça avec ton livre à côté.
Mais oui, moi, je suis un Yankee. il sait être chiant.
De toute façon, on a toujours été un peu Yankee de Drake, mais tout en étant capable de. peut complètement être objectif sur le...
C'est une relation toxique.
C'est trop comme avec Kanye, tu sais, c'est, les artistes sont c'est forts, ça. Mais...
Je te déteste, mais vas-y, c'est relou. Je te stream à chaque fois.
Kanye, c'est fini.
On va devoir couper le... Non, moi, du coup, je vais parler de Luigi. C'est pourtant pas... En soi, je le connais depuis longtemps. Pas personnellement du tout, hein, mais artistiquement tout. Avec Dinos, à l'époque...
Quel métro?
Tu m'as dit?
Quel métro? Champs-Élysées, Clémenceau.
Ouais, c'est ça.
Ça remonte,
en fait. Oui, c'est vrai, ça rappelait dans le métro, je me rappelle, de ce clip. Et le truc, c'est que ouais, bah, c'était bien, sans m'exploser non plus. Après, il y a eu le succès de Tristesse Business. Il a tourné, j'ai l'impression, trois ans avec un album. Je sais qu'il a fait deux zéniths, en tout cas, avec son album.
Il l'a fait taffer.
C'est une réussite totale, tu vois. Et puis, dans sa sphère, en plus, je sais pas, il a l'air d'avoir une vraie communauté, une vraie fanbase dévouée et tout.
Un D en plus, à son
nom. Ouais, c'est ça. Donc, c'est beau. Et là, il a sorti Saison 00, donc un préquel à Tristesse Business en soi, on va dire.
Okay.
Parce que, en gros, il va plus parler de lui dans son enfance, il va se parler à lui-même, il va parler, tu vois, de ses problèmes à lui, vraiment, et tout. Donc c'est bien fait, c'est bien écrit. La musique est bien faite, il n'y a rien à dire, frère. C'est... Et même, tu vois, en ce moment, entendre un album comme ça, je trouve que ça fait du bien.
De fou.
C'est dans aucune tendance.
Non, et comme...
Tu sais même pas trop ce qui... Tu vois, en fait, ça m'a fait penser à... Comme quand j'ai écouté Blonde pour la première fois, ou que j'ai écouté Sita the Table pour la première fois. C'est genre, tu sais, je sais pas, ça sort, ça aurait pu sortir dans 4 ans, il y a 3 ans.
C'est ça.
En fait, tu sais pas, tu vois, c'est juste, ça sonne bien, c'est bien fait.
Ils sont vite intemporels, quoi.
C'est... Ouais, en vrai, tu vois. Et moi, c'est ça qui me fait du bien, là, quand j'écoute ça, franchement, je kiffe. Et je donne mon top 5 de l'album. Moi, c'est en 5e, du coup, Monde, 4e, Reste en vie, Joueur 1 ensuite, Téléfoot. Et le premier, moi, pour moi, je crois que c'est l'intro, hein, tout simplement, Alexis, qu'on écoute maintenant.
J'ai pris soin de, fais de mon mieux, plutôt discret et silencieux. Je voulais juste qu'on m'aime un peu. Que les filles me regardent comme elles regardent mon meilleur pote, la star du lycée. Un tout bab qui met des pots de pêche et des durags, des diamants sur les lobes. Je voulais juste qu'on m'aime un peu.
Je coupe dans un. Une envolée.
Incroyable.
Mais c'est vraiment, ouais, franchement, je sais pas, je me le prends totalement. Donc bravo, ça fait deux fois que je crois que je parle de Foufoun Palace. La dernière fois, c'était Curry. Là, c'est Luigi, mais ils sont forts, hein. Y a rien à dire.
Ils ont enchaîné, ouais.
Franchement, y a rien à dire. C'est très, très bien.
Les
gars, on refait un petit tour, ça veut dire film, Donjon Dragon pour Othello, moi Babylone, et après Spider-Man pour Loco. En série, on a parlé de Dave, on a parlé de Abbott Elementary, on a parlé de Andorre. Et après, on a fait les albums qui sont Paris, Texas. Après, toi, c'était Danny Brown et JPEG Mafia.
Scaring the Hose.
L'album Paris, Texas et Midair.
Midair, ouais, c'est ça. Et après, bah, moi, Luigi, saison 00. Donc voilà, une sacrée une mi-saison 2023. Ça,
ouais.
Hein, ouais, franchement, de bon goût en tout cas.
Ouais, c'est ça. C'est pas forcément rempli, mais non. Des vrais trucs à regarder.
On n'est pas dans une ère super forte de toute façon, j'ai l'impression, mais il y a des trucs qui sortent qui mettent des grosses claques en tout cas, je trouve.
Ouais. On est plus exigeant aussi.
Ouais, peut-être. C'est peut-être ça. Peut-être des vieux cons, frère.
un peu, toujours.
C'est pas impossible. Après, non, en tout cas, voilà les gars, ça fait plaisir. Hein. J'espère que vous irez écouter, voir ou peu importe si vous avez déjà vu. J'espère que vous êtes d'accord avec nous sur ces choix-là de top. Et puis voilà, hein, je pense qu'on en refera un quand on sera en décembre, hein, finalement, sur toute l'année 2023,
oui,
soit la deuxième moitié, en espérant qu'elle soit aussi bien ou soit mieux. J'espère que ça sera même mieux.
Moi, je pense que ce sera mieux.
Moi aussi. J'attends juste l'album d'Azaproki et puis après, je serai content.
Okay.
Ouais.
En série Invincible, saison 2.
Oh là là, frère, ça.
Ah, j'attends, j'espère que ce sera. Mais sauf que je crois que ce sera 2024.
D'ailleurs, je viens de voir sur Disney Murders in the Building, ça reprend.
Ça a pris, il y a deux épisodes de sortie, j'ai pas regardé encore.
Quelle série de fou.
Et d'ailleurs, Invincible, il y a eu un épisode spécial de 1 heure.
Oui,
sur la meuf, là.
Sur Atom Eve, qui est joué par Gillian Jacobs. doublé par Gillian Jacobs de Community, qui est Brita.
Qui joue Brita.
Ok, ok.
Comme quoi, cette série ne part jamais. C'est pas moi qui
Elle est toujours par là. On n'est jamais très loin.
Toujours dans le coin. En tout cas, merci les gars, on a fait l'épisode le plus long, 1h30, 1h28, ça fait plaisir, j'espère que vous kiffez, que vous passez un bon moment et que vous avez aimé l'épisode. Bonne journée, bonne soirée à vous, salut tout le monde et à la prochaine. Meilleure radio.